Wow, Charlie, il est quelle heure là?
Oh putain, mais il est 20h.
Et on est quel jour?
Mercredi.
Et qu'est-ce qu'il y a le mercredi à 20h?
Sur RCN, la boîte de chocolat.
Allez. Et ce soir, notre chocolat, ce sera Iron Man, et on en parle maintenant.
Dans 15 secondes, tout ce qui existe sera complètement atomisé.
Si c'est une rançon que vous espérez, je vous dis tout de suite que je n'ai pas d'argent.
Nom d'une pute, t'es qui, toi?
Je suis une mythe en pull vert.
C'est la plus extraordinaire réponse que j'ai jamais entendue.
Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça.
Moi, tu parleras le jour où on t'aura sonné, petit con.
Oh, my generation.
On est mal barré.
Sois enculé.
Tu es immortel.
Cause it's bad boy for life. For life.
Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le podcast qui est La Boîte de Chocolat. Alors ce soir on va parler d'Iron Man, c'est un film de super-héros de 2h06, réalisé par Jon Favreau en 2008. C'est avec Robert Downey Jr., Jeff Bridges, Gwyneth Paltrow, Jon Favreau et Terrence Howard. Et quand on déballe le chocolat, eh bien ça nous donne ça.
Vaut-il mieux se faire craindre ou se faire respecter? L'idéal serait de faire l'un comme l'autre. J'ai l'honneur de vous présenter le Jericho.
Rico.
À la paix.
Ouais, mais en déboum.
Tony Stark.
Ouais.
Vous allez travailler pour moi.
Si je veux.
Qu'est-ce que vous construisez, Stark?
Un Terminator.
On a les yeux rouges, on pleurait son patron disparu.
Des larmes de joie. J'ai horreur de chercher du boulot.
Les vacances sont finies.
Vous aurez votre prime.
Qu'est-ce qui s'est passé là-bas?
J'ai enfin ouvert les yeux.
Il faut que je protège les millions de gens que j'ai mis en danger.
Eh ben oui, Tony. Faisons ça. Faisons ainsi. Alors, Iron Man, c'est un film qui a reçu la note presse de 3,4. Et la note spectateur de 4, ce qui est plutôt correct.
Ouais, hein, j'avoue que c'est presque un plébiscite. Hein.
Alors ce soir, podcast un petit peu spécial parce que nous serons que 3. Quand on est 3, on a décidé de se lancer dans la saga Marvel. Ce soir, m'accompagne Charlie. Bonsoir,
eh bien,
Charlie.
Bonsoir Thomas, bonsoir tout le monde.
Bonsoir Thomas.
Bien, bonsoir Thomas, bonsoir Charlie.
Et bonsoir à moi-même.
Et bonsoir Thomas. Également.
Donc là, c'est sûr, quoi, on se lance dans la saga Marvel.
Là, c'est sûr, on se lance dans la saga Marvel.
Les 25 films.
Petit rappel, ouais, c'est ça, il y a 25 films.
Bah, en tout cas, voilà, quand on sera que 3, c'est ce qu'on fera.
On est d'accord juste qu'on arrête après Endgame. Voilà, c'est clair, ouais. On poursuit pas
après, oui, non, parce que là c'est vraiment trop de la merde après. Ouais, là, ça devient compliqué, hein. Qui me fait le résumé de ce brillant film?
Posons la question.
Qui me fait Charlie le résumé?
Bah, je pense que la bande-annonce a été assez claire.
C'est donc
l'histoire d'un Golden Boy,
yeah,
fabricant d'armes, qui effectivement réalise que les armes c'est mal, et décide donc de fabriquer une arme pour contrer les armes qu'il a fabriquées. Voilà, on s'en fait pas en même temps.
Oui.
C'est quand t'es bon dans un truc, voilà, il a une petite crise existentielle.
C'est sa quarantaine, je pense.
Exactement.
Je pense qu'il a envie d'être un garçon déconstruit et il se dit que c'est le moment, en fait, en gros.
Le film s'ouvre sur un logo qui va marquer, c'est le fameux logo Marvel, qui malheureusement perdra de sa superbe une décennie plus tard, hélas. Puis arrive un plan en plein désert sur une musique mythique, celle des Bébés Brunes.
Avec un solo de guitare.
Bien évidemment.
Ah, ça aurait été tellement...
Ça aurait été incroyable.
Dis-moi, tu dois partir ou pas.
Grave. Ah putain, incroyable.
Sur un convoi militaire, on y découvre un Tony Stark qui, en quelques phrases, définit parfaitement le personnage, à savoir cool et prétentieux, juste avant qu'une attaque surgisse mettant à rude épreuve notre héros, notamment lorsque celui-ci...
Après, si je peux me permettre, le personnage a déjà vieilli, en fait, tu vois, je pense qu'il y a des trucs déjà, à mon avis, il tenterait plus maintenant, déjà, tu vois, en gros.
Ah,
la vanne sur la seule femme qui est militaire, ah, je vous aurais pas reconnu, enfin, ce genre de truc.
Oui, après, ça date de 2008, effectivement.
Ouais,
il y a peut-être des subtilités.
Il y a des codes, les codes ont changé, déjà, tu vois.
Mais il a le petit côté.
Les codes ont changé.
Ça, c'est une soirée très musicale.
Il a le petit côté connard, mais
cool,
mais qu'on aime bien quand même.
Ouais,
voilà.
Ouais. Le côté agaçant.
Le mec qui te fait rire, au moins.
Ouais, c'est ça.
Bah, c'est vrai que l'ouverture, tu comprends pas, t'es dans un humeur. C'est le mec avec un magnifique verre de whisky avec deux glaçons, tu viens d'apprendre que t'es en Afghanistan, tu te dis ah, putain, le mec les moyens quand même.
Puis alors dans le camtar, tout le monde le suce, hein.
Ouais,
tu dis putain, Tony, ça va Tony, on peut se tutoyer. Ouais, non,
c'est clair. Et Tony, vous êtes vraiment fait les 12 filles des 12 mois de Playboy?
Alors
évidemment,
ils étaient 13, il y avait un mois caché, ouais, super. Et donc là, en effet, ce convoi va se faire attaquer, explosion.
Oui, guet-apens en fait.
Ouais.
Peut-être en petite embuscade. Tony s'extrait du Hummer qui prend en chair, tout le monde est mort à côté de lui. Et en fait, il s'avère qu'il y a une bombe qui explose, enfin qui tombe juste à côté de lui.
Le missile, ouais.
Estampillé Stark.
Oui.
Et donc, il fait exploser.
Il le regarde, il dit un air de déjà vu.
Ah ben, je pense que quand tu te fais tirer dessus par tes propres armes, ça change un peu la perspective.
Oui. C'est
comme si Monsieur Black & Decker se faisait percer le genou avec sa perceuse, quoi. Tu vois, c'est il clair. Se dit putain, ça peut servir à ça aussi. Alors.
Mais est-ce que ça aurait pas été plus drôle que la bombe n'explose pas? Et là, d'une certaine manière, tu le vois, il fait attends, j'ai fait cette merde d'une certaine manière.
Ah non, il fait du bon produit.
Ouais, c'est clair. Oh.
Il fait du bon produit.
Là, il perd connaissance et se réveille dans un endroit qui ne figurera jamais dans le catalogue Pierre et Vacances. Là, on est plutôt ambiance grotte, ambiance scandale, danse de vandale. Il se fait filmer, on lui retire un sac à patates sur la tête, et là, écran noir, écran titre, et on revient à 36 heures plus tôt.
Oui. C'est ça, petit flashback.
Ce qu'on appelle un flashback, ouais. Et ben, on a le droit à une petite remise de prix.
Vidéo hommage, ouais.
Le trophée du connard impertinent, mais qu'on aime bien quand même.
Franchement, c'est une cérémonie surtout qui tombe parfaitement au bon moment, quoi. On avait besoin d'une présentation du personnage.
Ah, ce que je veux dire. Non, mais ce qui est bien, c'est que ça permet d'embarquer les spectateurs qui ne sont pas au fait de qui est Tony Stark dans les comics.
C'est vrai qu'en 2008, en tout cas pour le public français, Tony Stark, c'est pas un mec extrêmement connu.
Iron Man, c'est pas le premier. Je veux dire, quand tu pensais Marvel, tu pensais à Spider-Man, tu pensais aux X-Men.
Tout à fait.
Mais voilà, Iron Man, tu l'avais pas.
Captain America, éventuellement.
Ouais, c'est ça.
Et encore, ouais, assez peu.
Et voilà.
C'est ça. Bah, du coup, on a le droit à une présentation qui nous présente le Golden Boy, mais qui nous présente surtout toute sa vie. Tu comprends très vite que très jeune, c'était un génie, qui avait lui-même un père génie. Il était présenté rapidement aussi également un mec qui est l'assistant du coup du père, qui tu comprends que c'est plus ou moins le responsable financier, le directeur commercial. Obedia Stane, qui était vite fait présenté en fait, et qui était présenté comme étant la personne qui avait géré toute l'entreprise à partir du moment où le père est décédé et que Tony finissait ses études.
Est-ce que tu parles de Jeff Bridges fucking class?
Ah, Jeff Bridges, putain, il porte des costumes dans ce film, il est classe à mort. Hein,
j'ai jamais vu un chauve aussi stylé que lui.
Il a un crâne parfait.
Ah ouais, mais mec, il a un crâne à être chauve. Lui, chevelu, ça aurait été dommage, tu vois. Mais, un crâne comme
porte,
ça. Non.
Et puis il porte bien la barbe aussi.
Il pète
le charisme, hein, franchement.
Ah, il dégueule le charisme.
Parce que ça fait partie des super méchants Marvel, franchement, quand tu vas les chercher, qui sont en termes de style, mais en termes de super pouvoir, il est éclaté en fait, tu vois.
C'est un Lex Luthor en fait.
Ouais, c'est ça, voilà, c'est tout. Il a
en même titre que Iron Man n'a pas de super pouvoir non plus.
Mais Lex Luthor avait l'intelligence. Là, il a vraiment rien lui en fait. Hein. C'est juste en fait un financier magouilleur en fait, quoi, en gros. Mais stylé.
Ouais. Avec un petit côté Thanos quand même, je trouve, physiquement.
Ouais. Tu vois, le gros menton,
le crâne chauve.
C'est clair. Et du coup, ça t'a expliqué qu'à 21 ans, il a repris l'entreprise et du coup, il a décidé de tout faire exploser. Il était très talentueux, il a créé plein d'armes. Et c'est à ce moment-là que recommence le pitch et tu découvres qu'un dénommé Colonel Roddy est en train de faire, d'être là en fait. C'est un petit peu le paillasson du film, je trouvais en fait, malheureusement.
Ah bah, ce sera surtout le paillasson de la franchise.
Le paillasson de l'épisode 1, parce qu'un personnage créé qui disparaît.
Non,
il disparaît pas.
Non, il était remplacé.
Oui, qui a été remplacé. Mais
Colonel Multivers. On l'appelle.
Pourquoi il était remplacé? Alors, pour refaire un petit point,
ça,
tu sais
pas cool.
Ah bah écoute, tu vas adorer la suite.
C'est une question salariale.
Donc, attends, on va remettre les choses en contexte.
C'est juste une question salariale. Ouais. Ok, d'accord.
En fait, le gars qui joue Roddy, c'est ça?
Terrence Howard.
C'est ça. C'est un mec qui, à la base, quand Iron Man était là pour lancer Marvel, hein. Clairement, c'était ça. Il y avait un projet Avenger, etc. Et il s'avère que cet acteur-là était diablement gourmand, ce qui a fait en sorte que Marvel lui dit, Disney lui dise, bon bah écoute, tu iras te faire enculer pour la suite,
mais
ciao.
Tu sais que c'était lui l'acteur le mieux payé du film?
Ah déjà,
c'est
dans
pas Robert
Downey
Jr.
Ah non, mec, Robert Downey Jr. à l'époque, c'est un camé. Hein.
Ouais,
Robert
Downey
Jr. il a un salaire minimum.
Ouais. Donc le mec qui a pris...
Par contre, dans le deuxième film, il avait un salaire monstrueux. C'était personne à l'époque. Enfin, si, c'était quelqu'un, mais.
C'était le mec sur qui on misait pas encore.
Le mec pas fiable, quoi.
Ouais. D'accord. Ah putain.
Il peut très bien ne pas venir le lendemain, la deuxième journée de tournage, parce qu'il est en train de prendre des fixes dans un.
Alors, dans ce podcast-là, on va vous passer toutes les légendes urbaines. Genre, ouais, mais en fait, c'est quand il a pris un cheeseburger, qu'il l'a mangé, qu'il s'est dit, ouais, finalement, je vais reprendre ma vie en main, comme dans le film. Non, ça, on va tâcher tout ça.
Bah, du coup, Roddy finit de présenter Tony et pour qu'il récupère son prix. Et au moment où il est appelé sur scène pour le récupérer, il vient pas. Et du coup.
Pas les couilles.
Du coup, place à Mr. Obadiah Stane qui vient prendre le prix avec classe.
Son prénom est stylé aussi. Obadiah, je trouve ça un peu
Obadiah Stane.
Obadiah. Allez, ça va être une podcast musicale.
Ça fait beaucoup de musique quand même à chanter.
Obadiah, ouais, c'est vrai que tu l'entends pas tout le temps. Mais putain, qu'est-ce qu'il est charismatique. Donc là, en effet, Tony, il vient pas récupérer son prix parce qu'il a mieux à faire. Il est au casino, Tony. Ouais. Il est en train de se faire kiffer.
Il joue au craps.
Il craps, ouais.
Et, ouais. Et quand il quitte le casino, pareille scène, à mon avis, on pourrait plus le revoir, ça, ce genre de scène. Vas-y, Charlie,
oh, aussi. Bah, il se fait interpeller par une journaliste.
Ouais.
Alors imaginez Élise Lucet, mais en plus bonne. Voilà.
Qui change vraiment toute la donne.
Oui, oui, c'est comme si Cache l'investigation a été présenté par Mélissa Torio, tu vois. C'est un peu le même.
C'est quelqu'un. Hein.
Et donc une journaliste de Vanity Fair qui l'interpelle. Et là, il est de dos, comme ça, et puis il demande à son assistant, Happy, est-ce qu'elle est jolie? Et le mec lui dit, ouais, bah, du coup, je vais
répondre aux questions.
Du coup, je vais répondre aux questions. Après, mec, il a le droit de.
Bien sûr.
C'est vrai qu'il dit jolie. Il dit pas, elle est bonne. C'est vrai que là.
Et il s'avère que cette journaliste de Vanity Fair a des questions vachement pointu sur la moralité de vendre des armes, de fabriquer des armes, de vendre des armes, de profiter de la guerre.
Oui, parce que très clairement, la Tony Stark n'est qu'un vendeur d'armes en fait.
Ah bah oui. Marcel Dassault était un génie aussi. Hein,
ouais, c'est vrai.
Au final, il vend des armes.
Ouais.
Monsieur Colt.
C'est lui qui a une section, non?
Section Dassault.
Exactement. Il a la ref.
Excellent. Donc avec la journaliste.
Bah du coup, en gros, il la vanne, il dit qu'il préfère être catégorisé comme un marchand de mort. Puis ensuite, après, bah, il fait tout le laïus sur le côté, entre guillemets. Moi, je suis désolé, vous comprenez, il faut être méchant pour. Enfin, faut pas être méchant, ouais, c'est ça. Je défends le monde des méchants, justement, en faisant des armes. Voilà.
Ouais, Niska, le monde des méchants.
Ouais, ça, voilà.
Ouais, enfin, c'est plutôt je défends les États-Unis contre le reste du monde. C'est plutôt ça la logique. Mais alors, par contre, on sent que, en plus d'être un génie et d'être milliardaire,
c'est un gros baiser.
Il a quand même un certain sex appeal parce qu'il arrive à leur tourner le cerveau.
Ouais.
Je veux dire, la meuf lui rentre dans l'air en lui disant vous êtes un connard, vous profitez
de
la guerre
et
tout.
Excellent. Pauvre.
Ah, t'as cerné le personnage, toi.
Ah, mais voilà, parce que je voulais pas que tu t'enterres dans une longue explication. Je me suis dit que ça pourrait être beaucoup plus simple.
C'est clair, c'est bien résumé, c'est concis quoi. En fait.
Il arrive à lui faire une passe de Jedi en mode je veux bien perdre un peu de temps avec vous, et puis l'autre elle est subjuguée.
Ah, ouais, non, mais c'est exactement ça. Au réveil, donc bien évidemment, Tony ramène la journaliste, ils couchent ensemble. Au réveil, on se rend compte que.
La maison parle.
Ouais. La putain de baraque de Tony Stark, elle est incroyable.
Ah bah.
Et ça va être ça sur tous les épisodes.
Oui,
c'est un petit
oui,
peu
oui.
Les maisons les plus cool qu'il va avoir au fur et à mesure.
Bah, à chaque fois, c'est la même de toute façon.
Non, parce qu'elle disparaît.
Elle disparaît, elle explose.
Dans le 3
ouais, c'est ça.
C'est dans le 2 qu'elle.
C'est dans le 3 qu'elle explose,
d'accord,
en fait.
Mais
c'est
quand même. Spoiler, les gars.
Ouais, c'est vrai.
C'est dans
10 films.
Et puis, on découvre aussi que, eh ben, quand elle vend pas des bougies de sa chatte, Gwyneth Paltrow.
Ça va chercher tous les dos.
Ah ouais, c'est même pas une vanne gratuite, c'est une vanne honnête. Vous pourrez aller vous renseigner sur internet, vous pouvez acheter des bougies.
Pour avoir le prix surtout.
À l'odeur du vagin de Gwyneth Paltrow. Bref.
Je déconne pas, j'avais essayé d'en acheter une et c'était en rupture de stock. Je voulais l'offrir à Thomas.
À moi?
Ouais. Ah bah oui, mec, c'est pas pour moi, j'en ai rien à foutre.
Un cadeau sympa.
Et donc, quand elle vend pas des bougies de sa petite touche, et ben en fait, elle s'avère qu'elle est. Bah, elle est quoi?
Bah, c'est son assistante.
Ouais, voilà, c'est son assistante.
En fait, c'est elle qui. Parce que voilà, Tony aime bien.
Assistante plus plus, hein, quand même.
Oui, bah, c'est son bras droit même.
Oui.
Ouais. Bon, assistante, je pense qu'elle est quand même qui fantasme, qui est quand même plus que à mon avis, elle est amoureuse de son patron depuis longtemps quoi.
Oui, mais par contre, elle est consciente qu'il se tape tout ce qui bouge quoi.
Ouais, c'est clair. Ouais.
Bah oui, mais alors par contre, il a même pas la délicatesse de virer les meufs de son propre lit.
C'est
donc il laisse ça à son assistante.
Donc d'ailleurs, en parlant de lui, on le retrouve dans son garage et qu'est-ce qu'il est en train de faire?
Bah, il fait des trucs de génie.
Oui,
c'est-à-dire il est en train de bosser sur une voiture et d'oublier l'anniversaire de son assistante surtout.
Et oublier également qu'il doit repartir faire une présentation en Afghanistan aussi également. Enfin, il s'en les couilles en fait, tu comprends qu'en fait le mec
c'est le génie quoi.
C'est le génie, bon, c'est pas ça, c'est le mec qui est génie, qui a de la thune et qui fait un petit peu tout ce qu'il veut quoi. Vraiment, la première partie du film, ça te montre quand même que c'est un connard, c'est le
oui,
c'est
ça
principe,
te dépeint, enfin, c'est, oui, ça te dépeint le connard, personnage. Ouais. Mais par contre, le film te montre aussi que voilà, il y a quand même une petite romance qui est en train de s'instaurer entre c'est Pepper, hein, c'est ça,
Pepper,
ouais.
Pat.
Il y a une tension, on va dire,
ouais.
Après, romance, c'est peut-être un peu exagéré au début du film en tout cas, mais tu sens qu'il y a une complicité.
Implicité plus plus quoi.
Non consommé, mais voilà, il y a une tension.
Si ta meuf elle a la complicité là au boulot, ça va vite te casser les couilles hein, quand même. Ouais.
Effectivement.
Donc en effet, le film continue de nous dessiner le personnage de Tony Stark un petit peu. Je fais des vannes, je prends rien au sérieux, je suis un peu déconnecté de tout, et puis en même temps, je sais que le monde me mange dans la main quoi.
Ah, et qu'il est égocentrique, il est mégalo, il respecte absolument pas ses soi-disant potes parce qu'il les fait attendre 3 heures. Et puis surtout, il connaît pas l'anniversaire de la personne la plus importante de sa vie, puisqu'on comprend que c'est elle qui gère sa vie plus ou moins.
Mais Pepper, ça, elle s'y est faite parce que du coup, elle dit non, mais vous en faites pas, vous m'avez déjà offert un cadeau. Ah bon, quoi, parce qu'en fait, elle s'est servie elle-même, donc nickel. Il doit se rendre à un rendez-vous et comme si on l'avait pas encore assez vu, eh ben, Tony.
Premier placement de produit.
On va voir. Oui, franchement, ça aurait pu être un film de Besson, ça. Ouais. Tony, direct pour se rendre dans son jet privé, il va enchaîner une Audi R8 et il va filer à toute allure dans son. Alors, son jet privé. Son jet strip club privé.
Alors,
c'est pareil. Ça vieillit de ouf. Hein.
Ouais, j'avoue que celle-là, elle est pas. La celle-là, elle est vraiment pas obligatoire.
Alors, qu'est-ce qui se passe?
Bah, donc, le colonel Roddy, donc, qui était censé lui redonner le prix au départ.
Le colonel Rayel.
Le colonel Rayel. War Machine, ouais, dans les suivants. En fait, est en train de l'attendre dans son jet. Donc, le mec arrive avec 3 heures de retard. Il lui sort un truc du style, bah, c'est toi que j'attends maintenant. Ouais. Insupportable, bref. Ouais. Et les hôtesses qui le dévorent du regard quand même. Enfin,
c'est pas des hôtesses de l'air, c'est des hôtesses tout court en fait.
Ouais, voilà. Donc, enfin, il commence à lui servir. Alors, servir des
hôtesses option R.
des sushis avec du saké et puis ça part en. Malgré les protestations du colonel Roddy, ça finit par partir en espèce de soirée. Et il y a une barre de pole dance qui,
dans le jet,
qui
hein,
apparaît
toujours
dans le jet et les hôtesses qui commencent à danser dessus et tout.
Ouais, à retirer leurs vêtements.
Je suis pas ultra convaincu. Je sais pas si c'est inscrit dans leur contrat.
C'est très 2008, ça, je trouve, en fait. Tu vois, ça a déjà bien vieilli, quoi, en gros. Moi, c'est dès l'entrée, j'ai vu ça, j'ai fait, bah voilà, le film est vieux. En
fait. Ça fait un peu mal toxique. Hein, ouais, c'est voilà. Bonjour les femmes, bout de viande, quoi. Il y a Pepper qui est.
Il y a ça, et en fait, tu vois, Pepper, si tu comprenais pas, en fait, qu'elle rentrait dans son jeu, tu pourrais juste te dire, ah d'accord, en fait, ton boss, en fait, t'harcèle sexuellement. Et
c'est vrai que des fois c'est un peu limite. Hein.
Et oui. Mais bon, comme en fait, au bout d'un moment, je pense qu'elle finit par le répondant, etc., et que le personnage d'Iron Man n'est pas toxique, bah ça passe. Mais c'est un peu lourdeau, quoi.
Et là, du coup, le jet strip club atterrit et ça va être l'occasion pour Tony Stark de faire la présentation de son nouveau missile, à savoir le Rico. Mmh. Et ça nous donne ça.
Vaut-il mieux se faire craindre ou se faire respecter? Idéal. Serait de faire l'un comme l'autre. Dans cet esprit, je vous présente humblement le joyau de la couronne de nos gardiens de la liberté. C'est le premier missile à être doté de notre technologie exclusive de répulsion. On dit que la meilleure arme est celle dont on n'a pas à se servir. Eh bien, je ne partage pas cet avis.
Je me la mérite.
Je préfère l'arme dont on a besoin de se servir qu'une fois. C'est ce que mon père faisait, c'est ce que l'Amérique fait.
L'Amérique.
Et on ne s'en sort pas si mal jusqu'à présent. Trouvez-vous une raison de lâcher un de ces engins dans la nature et je peux vous donner ma parole que les méchants ne voudront même pas sortir de leur grotte.
Les méchants, on sait tout de suite de quelle ethnie ils parlent.
Oui, bah oui, dans des grottes, oui.
Ouais.
En Afghanistan, en plus.
Les araignées?
Non, non.
J'ai l'honneur de vous présenter Jericho.
Ah, c'est stylé, ouf.
Il y a vraiment des scènes qui ont très très bien vieilli et celle-ci en fait partie.
Le mec est un vendeur quand même parce qu'il sait vendre son truc dans le sens du timing et tout.
Ça fait partie, tu vois, j'adore cette scène, mais ça fait partie pour moi des incohérences principales du film. En fait, c'est un truc que je comprends pas. Ils font un test de missile. Pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de le faire en Afghanistan?
Ah, c'est une très bonne question. Bah, parce que en fait, si. Parce que là, clairement, il est en train de rayer une chaîne de montagne de la carte, mais au calme.
C'est clair.
Et donc il se dit, bah, autant le faire chez les gens pas civilisés et pas dans mon pays de. Je pense que c'est ça sa logique en fait. On va aller faire ça chez les Arabes là-haut, tu vois, en Afghanistan, et comme ça on protège notre pays, on démolit pas la nature.
Et ça, je comprends à la limite, bon voilà, mais ça pour moi c'est la première incohérence. Mais vous pouvez le faire dans le désert du Nevada. Mais la deuxième incohérence, c'est que tu comprends qu'Obadiah Stane, en fait, qui est le super méchant du film, c'est le responsable commercial, en fait, c'est lui qui vend, en fait, en théorie.
Lui, en fait, en théorie,
Tony Stark, c'est un ingénieur, en théorie.
J'ai l'impression que c'est plus son directeur financier,
ouais, tu vois, mais Tony Stark, c'est plus censé être son ingénieur. Donc, moi, c'est les deux principales incohérences du film qui servent le film parce que du coup, t'en as besoin pour le scénar, etc. Mais bon, c'est pas.
Après, si on a un des deux qui a une grande gueule et un peu de bagou, c'est quand même lui, donc clair. Autant le laisser faire l'avance.
Tout ce qu'il fait, c'est stylé après.
Retour donc à l'explosion du début, mais surtout retour au Club Med Molla. Et clairement, le confort n'est pas dingue. Il se réveille avec cette désagréable découverte, celle d'avoir un aimant dans la cage thoracique afin d'éviter que son cœur ne soit infecté par l'explosion qu'il a subie. Aimant qui est relié à une batterie de bagnole, donc bonne ambiance.
Bah, il a de la chance quand même d'être tombé sur le MacGyver du bistouri.
Ah ouais.
Parce que le gars a réussi à lui enlever les trucs. Ouais. Et en plus, à fabriquer un aimant, il est littéralement dans une grotte. Hein, donc je sais pas d'où il sort son matériel.
J'ai même envie de dire que sans ça, il n'y a pas d'Iron Man en fait.
Bah oui, parce qu'il lui donne un peu l'idée du truc. Mais ouais, il est sauvé par un. Bah, un chirurgien captif aussi, mais surdoué.
Ouais, ouais. Ah oui,
après, moi, ce que j'ai bien aimé, parce que je suis allé me renseigner moi, sur l'histoire d'Iron Man pour les faits, et le truc intéressant, c'est que...
Ça n'existe pas ?
Non, c'est que dans l'histoire originale du comics, c'est exactement comme ça que ça se passe.
Okay.
La seule différence, c'est qu'à la base, Iron Man, il combat des communistes.
Ouais.
Et que ce truc-là se passe au Vietnam, en fait, à la base.
Ah,
oui, mais c'est la seule différence, en fait.
Il fait la rencontre donc de celui qui l'a opéré, et très rapidement, il va rencontrer le staff du club des Mollas qui vont lui imposer la fabrication de missiles Jericho.
Ah, déjà, ils sont habillés en Stark Industries, parce qu'ils n'ont que des armes Stark. Mais voilà, ils sont fans de son œuvre, petit autographe. Franchement, on aimerait bien que tu nous fabriques ton dernier modèle.
En effet, il commence à lui dire, en fait, bah mec, tu vas nous fabriquer tes missiles et tu vas fermer ta gueule. Là, Tony, c'est un bon ricain, il dit non, moi, je négocie pas avec les terroristes, vous irez bien vous faire enculer. Torture.
Ouais, ouais. Torture, bah oui, en général c'est assez efficace. Torture, et puis après ils l'emmènent dehors pour lui montrer qu'en fait leur grotte c'est plus ou moins un outlet Stark, donc ils ont toutes les collections. Mec, c'est incroyable.
Il manque juste le dernier modèle.
Voilà,
en fait.
Ils ont pas la dernière pièce, mais vraiment ils ont toutes les collègues. Voilà.
Ouais, bon, il comprend également que parce que son pote, le gars qui l'a un petit peu sauvé, lui fait comprendre que de toute façon, même quand il fera les missiles, ils vont le tuer.
Donc, il le comprend, ça il le comprend.
Ouais, Tony, il est pas con, il dit ok, ça marche. Donc quoi qu'il arrive, je suis dans la merde, que je le fasse. Je vais me faire buter, et si je le fais pas, je me fais buter tout de suite.
On sent qu'il commence un peu à, tu vois, à réfléchir sur les conséquences de ses actes.
Oui.
Parce qu'en plus, le chirurgien lui fait un petit speech à coup de « pense à ta legacy, pense à ton futur, est-ce que tu vas laisser
pense
comme trace ?»
Pense à ta legacy.
C'est ce qu'il lui dit.
Bref, il n'a pas le choix. Du coup, lui et son fidèle copain, qui lui a sauvé la vie, décident de faire style de bricoler des missiles Jericho, parce qu'en fait, là, le but pour Tony Stark, ça va être de gagner du temps. Mais en fait, ils ne font pas des missiles. Ils utilisent ça en guise de couverture, parce qu'en fait, ils vont faire quelque chose de bien plus grand, de bien plus ambitieux.
Bah déjà, la première chose qu'ils décident de faire, c'est de miniaturiser un réacteur ARC, donc une technologie apparemment qu'il avait déjà en fait,
oui,
pour pouvoir éviter de scoltiner la batterie de voiture toujours à côté, ce qui est quand même plus pratique.
Il veut améliorer ce que son gars lui a fait au niveau de la cage thoracique.
Je pense que voilà, il s'est dit voilà, ce truc là en fait.
Ça lui évitera de passer pour un gitan quand il sort, ouais. Tu sais, avec la batterie à la main.
Bah c'est clair. En gros, c'est un peu ça l'idée, parce qu'en gros, il passe d'une batterie de voiture à une batterie au lithium en fait,
ouais,
mais ouais. Une batterie lithium. Plus,
ouais, non, parce que
on est dans le futur là.
Celle qui alimente tout ton quartier.
C'est clair, ouais, c'est clair. Ouais. Et à côté de ça, surtout, bah, du coup, il fait un petit plan et il a direct l'idée de se faire une armure, du coup, qui sera alimentée, bah, du coup, également
par le réacteur thoracique.
On a une scène donc qui est typique du cinéma hollywoodien. La règle numéro 6 du cinéma hollywoodien,
c'est
si le personnage secondaire commence à parler de sa famille ou de l'endroit où il vient,
c'est qu'il va mourir.
Voilà. Il faut donner un petit peu d'informations pour que le spectateur s'attache. Donc, s'il te balance des trucs au détour d'une scène random...
Ma fille. Oh,
j'aime bien ma fille.
Oh,
bah, toi, t'es mort.
Ou le compte à rebours.
Voilà. Donc, tu vois, il lâche sa petite miette et puis là, tu sens qu'il va finir par y passer.
Et donc, en effet, juste après, t'as le staff Mola qui débarque dans leur établi et ils vont décider de mettre un gros coup de pression.
Bah, du coup, le super méchant afghan,
oui,
qui est le Booba du pauvre, je trouve, en fait.
Le chef des 10 anneaux.
On attend la date, le jour, par d'arbitre. Octogone, et je vais te baiser tes morts et leur cercueil.
Bah, c'est un petit peu ce qu'il veut faire au monde, en fait. Parce que tu comprends qu'en fait, il a un petit complexe de supériorité. En fait, lui, il veut dominer le monde, en fait, tu comprends. Il se prend pas pour Alexandre le Grand, il se prend pour
Genghis Khan.
Le nouveau Khan, ouais, c'est ça, en gros. Quoi. Et bah, en gros, après avoir un petit laïus, il lui met un petit coup de pression, mais du coup, en faisant mine de buter le chirurgien.
De buter.
Et là Tony Stark lui dit bah, en fait, qu'il a besoin de lui, sinon il n'arriverait pas à le faire.
C'est ce qu'on appelle la technique du glaçon.
C'est-à-dire
tu vois les préliminaires, le glaçon, quand tu mets dans la bouche, bah, c'est pareil, mais avec une cendre chaude. Et en général,
c'est pas une technique que t'as déjà fait avec une de mes ex.
De quoi? La technique de la cendre chaude, tu veux dire?
Non, du glaçon dans la bouche.
Ah non, c'était dans des conditions bien particulières.
Okay,
après, ce qui me fait marrer, c'est que du coup, le seul point pour lequel le chirurgien est là, c'est parce qu'il parle anglais, en fait.
Oui.
D'ailleurs, en fait, il aurait trouvé un autre soldat qui parlait anglais.
Il n'y avait pas de problème en fait.
Bah oui, mais en même temps, le chef des terroristes parle anglais aussi,
ouais,
donc il a pas besoin du chirurgien.
Bah, en fait, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il se met pas juste avec Tony à le surveiller et là, du coup, en fait, il
parle anglais parce que dans le cinéma hollywoodien, ça veut dire qu'il est intelligent. C'est ça le marqueur, tu vois. Le mec parle anglais, tu dis ouh, il est raffiné.
C'est vrai que son lieutenant parle pas anglais, du coup.
Là, le chef de Mola, il met le coup de pression et il lui dit écoute, mec, c'est pas compliqué, t'as jusqu'à demain pour me fabriquer un missile Jericho. Sinon,
il a des doutes. parce qu'en fait les mecs sont, ils sont observés par des caméras, ouais, tu vois, et ils sont tellement intelligents qu'ils décident de fabriquer des espèces de jambes mécaniques articulées qui n'a aucun rapport avec un missile Jericho, on est d'accord. Et donc le mec a des doutes quand même.
Et puis, c'est pareil, deux secondes après tu vois Tony Stark qui est en train de faire un truc de forgeron qui fait un masque, et là tu te dis bon, je sais pas, j'ai quand même des doutes quand même, ça commence de plus en plus à ressembler à une armure.
Ils se réunissent autour de l'écran, tu penses c'est ça la tête du missile, un masque avec des yeux.
Mais tu sais que cette scène en plus elle a lieu, en plus tu vois les mecs après avec des leurs, ça ressemble vraiment à un missile, non mais là en fait il est en train de faire une tête déconstruite, tu vois, je fais, ok d'accord, c'est bien. C'est marrant ça.
Du coup, vu qu'il y a la pression de terminer l'arme pour le lendemain, il va devoir se speeder Tony avec son petit pote, à savoir terminer de fabriquer l'armure en speed. Et là, le staff Mola commence vraiment à s'impatienter.
Oui.
Ça commence à s'énerver et c'est pas compliqué, ça va tambouriner à la porte. Ah putain les gars, vous faites quoi ? Et là, dans un ultime sacrifice, parce que l'armure elle est quasi prête là. Donc Tony il fonce dans l'armure.
Elle se date en fait.
Et là, son pote il commence à tout verrouiller et en effet, temps de chargement.
Oui, une armure sous Windows.
Ouais, c'est ça.
Oui, après, en même temps, est-ce que t'as un bon réseau Wi-Fi en plein milieu d'une grotte en Afghanistan.
C'est pas faux. Et là, en fait, en attendant, en fait, t'as le pote de Tony Stark qui
Linsen.
Commence à dire.
Il s'appelle Linsen d'ailleurs.
Linsen ?
Ouais, c'est ça son nom dans le film.
Linsen, il commence à dire bon, écoute, Tony, il n'y a pas 36 000 solutions, je vais essayer de te faire gagner le maximum de temps. Et là, tu dis ah putain, un copain qui va partir trop tôt.
Carrément.
Il prend une mitraillette.
Rappelle-toi ce que je t'ai dit sur ma femme et l'endroit d'où je viens, et mes enfants.
C'est ça. Et là, il décide d'aller se friter avec les gardes pendant que Tony est dans l'armure en attendant que la mise à jour soit effectuée.
Ouais.
C'est un beau sacrifice. Après, sur un personnage qui est très sympa et qui disparaît très vite en fait.
Ouais.
Et qui choisit très vite en fait de mourir.
Là, Tony, c'est bon, l'armure est prête, il est dedans et c'est à coup de grosses patates de fort métallique qui
là,
va casser des bouches.
Unboxing de l'armure, donc les terroristes ont le droit d'ouvrir le paquet cadeau et ça pète des dents.
Ah là, ouais, là franchement,
parce que le truc c'est intelligent, c'est que les terroristes du coup lui ont donné du matériel pour créer une bombe. Du coup, au moins il a pas de mitrailleuse, mais il a des lance-flammes. Ça, c'est il les utilise bien après d'ailleurs.
Ouais, puis même il met des patates de ultra fort. C'est rudimentaire.
Ouais.
Voilà, c'est pas très agile, mais c'est efficace.
En tout cas, ça te permet de t'arracher d'une grotte.
Oh, y a un petit côté Terminator, c'est clair. Enfin, c'est ou Robocop, tu vois.
Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais jusque là, hein, franchement, le film se tient en vrai, tu vois.
Moi, le film dans son ensemble se tient bien.
C'est rythmé, on s'ennuie pas trop. Hein.
Il réussit à sortir de la grotte et là, il va utiliser un jetpack. Alors, ça, par contre, je me suis dit, c'est un petit peu fort de café. Bonne expression de vieux.
Fort de café, ouais.
Parce que qu'est-ce qui se passe ? Après, il arrive à sortir de la grotte.
Le problème, c'est que si on s'arrête à toutes les contraintes techniques, notamment aérodynamiques et tout, on va pas aller loin. Mais effectivement, il a muni son armure de petits, de petites fusées en fait.
Ouais,
il a des fusées, donc il décolle. Oui. Parce que il arrose au lance-flamme toute la grotte.
Donc il se débarrasse en fait des molas.
Voilà. Donc toutes les armes qui sont dans la grotte aussi, les missiles et tout, et donc tout finit par péter et il s'extirbe de tout ça.
Surtout que je rappelle que le plan à la base c'était de réussir à s'envoler à deux. Hein. Donc il le prenait dans ses bras et le mec c'était marche ou
crève. Je sais pas, peut-être qu'il a revu le plan au moment où l'autre est mort. Je sais pas comment c'était l'évasion au départ. Mais il monte, je sais pas, à peut-être 200, 300 mètres de haut et il s'écrase comme une merde dans le sable.
Ouais. En fait c'est ça, il a de la chatte. Il y a du sable en fait.
Mais 200 mètres. Sable, ouais, voilà. Oui, parce que qui prennent pas les balles. Parce qu'il est une armure,
parce que
allez,
déjà tu tombes de 200 mètres dans l'eau, ça fait mal. Mais 200 mètres dans du sable,
Même pas atterri par un petit coup, tu vois, même pas un petit coup de propulseur au dernier moment, tu vois, c'est vraiment il se crache quoi en fait.
Oui, parce que 200 mètres dans l'eau, c'est pareil. Hein, si tu fais un plat.
Ouais, en armure en plus métallique.
Oui, ça devient sport.
Mais en tout cas, il y a tous les éléments dans l'armure de ce qu'on retrouve pas dans son armure finale, quoi.
C'est ça.
Tu vois, elle vole, le côté métallique, le côté je mets des.
Il met pas le lance-flamme en revanche.
Il s'écrase en plein désert. Il marche seul sur le sable. On nous avait expliqué juste avant que les Américains étaient quand même à la recherche de Tony, ce qui va expliquer pourquoi les hélicos arrivent.
Enfin, deuxième coup de chat. C'est grossier, mais bon, voilà.
Moins grossier que le coup, je tombe de 200 mètres et tout va bien.
Parce que là, on est d'accord qu'il marche, je sais pas, on va dire 10-15 km et là, bon, deux hélicos qui passent.
Ouais.
Bon, vas-y, on t'embarque.
Retour aux States, du coup, pour Tony, qui va s'empresser de donner une conférence de presse. Parce que
après un cheeseburger.
Ouais, oui, tout à fait.
Cheeseburger, petit placement Burger King important quand même.
Parce que les 3 mois au Club Mola lui a fait prendre conscience de certaines choses et ça nous donne ça.
J'ai jamais dit adieu à mon père.
Commence bien.
J'ai pas eu le temps.
Le mec bourré.
Je t'aime, comme mon frère.
Il y a des questions que j'aurais voulu lui poser. Est-ce qu'il aimait ce que faisait son entreprise ?
C'est une personne brillante.
Est-ce qu'il avait des conflits ? Est-ce qu'il avait des doutes ? Peut-être qu'il était jusqu'au bout des ongles l'homme qu'on a tous vu aux actualités.
Les journalistes qui doivent se dire « Oula !»
J'ai vu de jeunes Américains se faire tuer.
Ouais, ils sont prêts. Hein.
Par ces mêmes armes que j'ai créé pour les défendre et les protéger.
Principe d'une arme.
Et j'ai vu aussi que je faisais partie d'un système qui n'estime pas avoir à se justifier.
Monsieur Stark.
Monsieur Stark.
Oui, Ben.
Qu'est-ce qui s'est passé là-bas?
Oh, j'ai enfin ouvert les yeux. Et j'ai enfin compris que j'avais mieux à offrir à ce monde que les objets qui explosent. Voilà pourquoi, à partir d'aujourd'hui, je décide de fermer la manufacture d'armes à feu Stark International.
Coup dur pour Jeff Bridges.
Ah bah oui,
oula.
Bah lui, en fait, le problème, c'est que ça t'est pas dit dans le film, mais lui, en fait, tu comprends bien, en fait, il protège juste le fait. Et en fait,
essaye de ralentir, là, en fait. Reprends la phrase.
Jeff Bridges, oui. Obadiah Stein. En fait, le seul truc que tu comprends, en fait, c'est... mais ça t'est pas vraiment expliqué.
Je te mets un coup à chaque fois que tu dis, en fait.
Ah, pardon. C'est qu'il aime la thune, en fait. C'est la seule truc qu'il kiffe. J'y arrive pas, putain.
C'est quoi le prochain remix? Ce sera que des, en fait.
Ah, ça va être long.
Non, mais il essaye pas. Après, je trouve sa logique quand même à Tony Stark.
C'est juste
un
gagne-pain.
C'est juste un capitaliste, en fait.
C'est juste, alors, fabrique des armes,
ouais.
Ça me va.
Ouais.
Mais alors, par contre, on peut s'en servir pour tuer des Américains. Et ça, moi, ça me plaît pas du tout. je comprends pas.
Les Arabes, j'ai fermé ma gueule. Mais les Américains, là, je suis pas d'accord.
Alors, non, là, je dis non. Enfin, voilà, c'est comme si OnlyFans arrêtait le porno, quoi. Tu vois, c'est un peu.
Ce mec d'OnlyFans, écoutez, je viens de regarder la plateforme, il y a que du cul. Ouais. Donc, du coup, ça me plaît pas trop.
Donc, oui, le brave Obadiah, il est un peu en panique quand il se dit bah l'action va prendre un coup, je pense.
Mais je trouve que chaque fois, en fait, quand il intervient pour protéger pour protéger Tony Stark, il le fait avec beaucoup de classe, il est gentil, il
au début,
sourit,
ouais.
Etc. Non, mais là, quand il prend
t'as tous les médias,
il le fait avec classe, tu vois, c'est
franchement, si ça avait pas été un méchant, j'aurais bien aimé.
Ouais, ça aurait été un super CEO.
Je l'aime bien d'ailleurs, il est cool.
Bon, bref, du coup, là, Jeff Bridges, il va voir Tony afin de le raisonner, parce que Tony, c'est quand même la poule aux œufs d'or, donc il faut qu'il reste quand même dans le game. Et en fait, il s'avère que Tony, lui, ne jure que d'une chose, c'est le fameux projet réacteur, auquel Jeff Bridges n'y croit absolument pas, ce à quoi Tony lui révèle son secret. Il dit, tu crois pas à mon projet de réacteur? Non, ça marchera pas du tout.
Secret polyphénol, parce qu'il a l'air au courant un peu.
Il a l'air au courant quand même, Obadiah, qu'il y a quelque chose qui se cache quand même. Il le sait.
Oui,
mais il avait pas vu le réacteur.
Il l'avait pas vu, il attendait de le voir.
Ses yeux, mais.
Parce qu'en fait, quand un mec vient qui vend des armes et te dit on va arrêter les armes, soit il part en retraite, mais ce qui est pas annoncé, soit c'est qu'il a une stratégie en fait.
Tony, ouais, pas de soucis, t'as un plan B par contre? Parce que là.
Et du coup, la stratégie, en gros, c'est qu'il veut devenir le leader mondial de l'énergie, en fait, ouais. D'une certaine manière. Bah, après, c'était pas expliqué ce que c'est comme énergie, mais en tout cas, c'est un réacteur qui fonctionne.
C'est ça.
Ouais, on va dire fusion nucléaire, allez.
Et en parlant de ce fameux réacteur de Tony, on le retrouve, qui retourne chez lui et décide de faire une partie de Dr Maboul avec Gwyneth Paltrow. Alors, c'est quoi le concept de
Dr Maboul? Le concept, c'est que donc il a fabriqué son espèce de cœur de substitution dans une grotte afghane.
Ouais.
Et donc là, il a quand même à sa disposition du matériel un peu plus high-tech. Donc, il veut remplacer son cœur. Et il demande à son assistante qui, je pense que, voilà, d'un pur point de vue... éthique, ouais. Je sais pas si mettre ses mains dans l'orifice gluant de son patron,
gars, elle lui
faisait partie de son
la cage thoracique. elle lui enfile un truc.
Et puis surtout, il y a un truc que je comprends pas. On est d'accord qu'elle lui retire un aimant qui est jamais remis en fait.
Oui, mais je pense que tout le truc fait un peu office d'aimant aussi.
D'accord, mais enfin, ce qui va se passer après, plus tard, tu sais qu'il va le perdre. Il remet pas un aimant, du coup, avant de se rebrancher. Donc, bref, on s'en fout, mais petit détail.
Après, c'est censé empêcher les shrapnels de rentrer dans son cœur.
Ouais.
Mais c'est peut-être.
Les shrapnels ?
C'est peut-être pas instantané non plus. Tu vois, c'est pas dès que tu retires l'aimant, il meurt. C'est peut-être plus.
Peut-être qu'entre temps, il a cicatrisé.
Par contre, je voudrais bien savoir comment ça fonctionne, parce que le trou qu'il a dans la poitrine a l'air suffisamment profond pour mettre une main.
Ah oui.
Alors du coup, où est son cœur?
Ouais. Après, le cœur n'est jamais en plein milieu, il est un peu plus
Si, il est en milieu avec la pointe à gauche.
Non, le mien, il est vraiment. il est en bas à droite.
En bas à droite, ouais. C'est celui qu'on t'a enlevé dans une opération clandestine.
C'est ça, moi, je l'ai mis où je veux. Ok.
Le cœur de gauche.
Mon cœur, il est dans mon slope. Allez, hop là.
Moi, je trouve que c'est quand même très pratique parce que c'est bien centré pour pouvoir, après, derrière, bien te le mettre sur l'armure et que ce soit bien.
Écoute, quand elle lui enfonce le bras, t'as l'impression qu'elle peut lui nettoyer la colonne. Franchement, c'est ouf. C'est vraiment immonde.
Ah, mais voilà, c'est une scène très symbolique parce qu'elle a littéralement son cœur dans la main, tu vois.
Ouais.
Je pense que c'est pour ça, tu vois, la relation un peu romantique et puis le fait qu'elle est.
Scène suivante, Tony débarque voir son fameux pote Roddy, donc acteur qui se fera lourder dans le 2 et qui se fera remplacer par Don Cheadle. Et il va lui parler de son mystérieux projet. Et là, Roddy, il s'en bat les couilles, il a pas envie d'en entendre parler. Alors,
Et lui, il a pas le nez. Hein. Alors que ce soit au niveau du cachet comme au niveau du personnage, il est vraiment complètement à côté de la
plaque. Lui, il a dû passer à côté de beaucoup de tuyaux financiers.
C'est clair.
Je pense à un truc, Apple, ça te parle, oh, pas envie. Pff,
le truc avec la pomme, là. Tu crois que je suis dans les fruits et légumes ou quoi, les casse-toi.
Ouais, bah du coup, bah il le rembarre. Ouais. Et, mais il le rembarre gentiment parce que Tony allait juste lui dire non, mais je suis en train de réfléchir à un truc. Vas-y, pars à la retraite, t'es fatigué, mon gars.
C'est
et du coup, bah Tony.
En plus, j'ai vu ta dernière conférence de presse. T'es vraiment à chier, quoi. Du coup, il décide de tout faire tout seul.
Et bah du coup il rentre chez lui.
Retour
et
dans le garage.
Alors il repense du coup à ses anciens plans et il décide de tout remettre à plat et il repart sur une nouvelle sur une nouvelle armure.
Culture américaine hein, de démarrer tous les projets dans un garage.
Ah bien sûr. Bah c'est Steve Jobs,
ouais,
c'est
Jeff Bezos.
C'est Jeff Bezos. Ouais.
T'as dit quoi ça?
Started from the bottom.
And now we're.
Tu parles bien anglais,
bien
putain.
Sûr, mon gars, attends, les bases. Bah, je tout file à Drake. Hein.
Started from zero, en fait. Et puis,
Pendant ce temps, le staff du club Molla récupère les pièces de l'armure qu'avait laissé Tony dans le désert.
Oui, ils essayent de la reconstituer avec les. Bah, ils ont les plans techniquement.
Bah oui, ils ont les plans,
les morceaux, donc normalement tu dois pouvoir bricoler un truc.
Mmh. Bah, il y a pas de copyright.
Un expert, un ingénieur, il est pas après derrière parce qu'il a les plans, mais c'est des plans vagues. Mais les mecs quand même ont une.
Oui, mais tu peux. Enfin voilà, c'est comme un truc de Lego quoi. Tu remets les choses au même endroit et puis. Mais on a un montage parallèle entre eux qui font ça donc en Afghanistan et lui qui fait ça dans son garage. Oui. Et qui fabrique toute son armure.
Et puis il y a Jeff Bridges aussi qui va revenir.
Oui, il y a une histoire de le conseil d'administration de Stark Industries n'est pas ultra chaud à l'idée d'arrêter la bande d'armes parce que ça constitue la totalité de leur revenu. Et il lui dit, écoute, il faudrait que tu nous donnes un petit projet pour les faire patienter parce qu'ils commencent à avoir
les vautours quoi.
Bah voilà, mais mec, ils veulent du pognon, c'est normal.
Ouais, c'est ça. Et ils ont même mis une injonction sur ta tête parce qu'ils veulent pas du coup, ils pensent que t'es en dépression et que tu vas faire.
Sur un doigt de le mettre sous tutelle en fait.
C'est clair, oui, c'est un peu l'idée. Bah en même temps, ton PDG annonce que. Le business plan de base, finalement, on arrête tout. Ouais, je peux comprendre en fait.
Je pense que je me lance dans les carottes. Quoi?
Ouais.
Je pense que c'est exactement ce qui est en train d'arriver à Elon Musk en ce moment là. Tu vois?
C'est vrai.
Ouais. Ils doivent se dire.
Il y a une armure.
Peut-être la tutelle. Peut-être la tutelle. Il va falloir y penser quand même.
Pourquoi il fait quoi lui en ce moment?
Bon, n'importe quoi.
Bref, en tout cas.
Il y a des histoires qui sortent comme quoi il tape toutes les drogues du monde et qu'il est complètement azimuté et tout.
Hein. Bah, oh, il aime voyager quoi.
D'accord.
Entre les espaces.
Entre les espaces. Juste avant, on a oublié un point important. Ouais. Pepper Potts, du coup, juste avant qu'Obadiah le voit, lui donne du coup un petit cadeau. C'est son ancien cœur qu'elle a encadré avec une petite blague, petit souvenir pour se rendre compte que Tony Stark a bien un cœur en fait.
C'est la preuve que Tony Stark a un
cœur. Même si j'avais jamais vu le film, la façon dont c'est filmé, tu dis préparation paiement.
Ouais, bah c'est sûr.
Ouais. Donc là, lui, Tony, il se rebute sur son armure parce qu'il veut pas lâcher l'affaire avec ça. Mmh. On va avoir le premier enfilage d'armure. Alors, c'est pas encore Iron Man, dans le sens où elle n'est pas colorée.
C'est l'armure de test.
C'est l'armure ça. De test. Et franchement, c'est stylé parce que je trouve que la vue de son visage dans le casque, mais c'est un plan qui est iconique, ça.
Ouais, c'est tout, vrai. Hein.
L'armure, après, il va y avoir plusieurs déclinaisons dans les autres films.
Et dans les effets spéciaux, mais ça n'a pas vieilli.
Ça n'a pas vieilli, en fait, cette partie-là.
Parce que le métal, c'est ce qu'on fait de mieux. Ouais.
Oui, c'est pas une flamme, c'est pas de l'eau.
Ah, c'est bon à savoir, ça, en fait.
Ah bah ouais, tu vois la peau, les visages, tout ça, mais les reflets sur le métal, bah, t'as qu'à voir Terminator 2, qu'on a regardé il y a pas longtemps. Franchement, ça fonctionne encore plutôt bien.
Okay. Alors que, ouais, non, c'est clair.
Que c'est vieux.
Et là, Tony, il est assez fier quand même de son armure. Il va décider, pareil, il va y avoir une autre préparation paiement dans le film. Il va décider de pousser au maximum les limites de son armure.
Oui, il fait son premier test de vol. Et comme c'est un peu l'équivalent de Maverick dans Top Gun, il veut pousser sa machine au maximum et donc il monte en chandelle pour le rôle a été écrit pour Tom Cruise
mais franchement Tom Cruise aurait largement pu faire ce rôle bien sûr
et vous avez pas aimé la punchline il faut savoir courir avant de marcher c'est quand même un peu il y a des punchlines quand même de temps en temps quand même qui passent
celle-là j'ai pas trouvé dingue
je sais pas
facile et fausse tu dis bon pas ouf. Si je peux me permettre,
Vas-y, fais mieux, Thomas.
Bah, écoute.
Non, tu préfères elle lui rentre dans l'art, non, il lui rentre dans le cul, c'est ça? C'est ça, t'es pas mal.
Surtout que celle-ci, je suis désolé, elle irait tellement bien à Tom Cruise, il faut mieux savoir parfois courir que marcher.
Oui, carrément.
Ouais, non, j'avoue.
Il teste les limites de son armure en essayant d'aller le plus haut possible.
Oui.
Et là, il s'avère que quand tu arrives à une certaine altitude, en tout cas dans le film, ton armure se couvre de glace.
De givre.
Ouais. Et donc, elle s'arrête.
Oui.
Et donc, il tombe en chute libre.
C'est ça.
Et il arrive à s'en sortir uniquement parce qu'il tourne sur macOS et que ça se reboot vachement rapidement. Il est à 50 mètres du sol au moment où l'armure décide de.
T'as vu le message que diffuse le film, c'est-à-dire que dans les grottes en Afghanistan, c'est Windows, oui. Mais par contre aux States, on est sur du macOS. Hein, ça
va beaucoup plus vite à Los Angeles.
Il arrive à trouver le petit bouton pour ouvrir les volets.
Donc là, il retourne chez lui, il défonce du coup trois planchers et une bagnole.
Ouais, parce qu'il doit se rappeler juste que son armure. Non, c'est pas ça. Son armure doit faire plusieurs, au moins une tonne quoi en fait, quoi, ouais. En gros quoi.
Alors, c'est pas. Mais après, il change le. Parce que ça, c'est l'armure de test.
Ouais.
Et puis après, en bas, une fois qu'il est en bas, il dit à Jarvis de
changer.
Fabriqué dans un autre alliage, ouais, pour gagner en légèreté.
Passe en titane et or quand même. C'est bling bling quand même, moi je trouve, franchement.
Après, c'est Tony Stark aussi.
Ouais, c'est clair. Mais du coup, titane et or sur toute la taille de l'armure, sacré bif quand même, son armure quand même.
Disons que s'il raye ta bagnole, faut que tu grattes un peu, il y a un petit bias.
Mais surtout,
il ouvre le cadeau de Pepper.
Oui.
Et c'est une bougie parfumée.
Et c'est sa chatte. Il dit putain, mais à quel moment je l'enfonce dans le cœur. Et puis surtout, il est en train de regarder la télé, qu'est-ce qui se passe?
Il découvre qu'en fait, en même temps, il y a sa société qui fait un gala de charité pour les pompiers. Mais c'est sa boîte, mais que bon, comme chaque année, il s'en bat les couilles. Et là, il se dit, attends, on est invité à ce truc-là. Qu'en plus, il y a Jarvis qui lui annonce qu'il y en a pour 5 heures pour qu'il puisse retester son nouveau jouet. En fait, autant se faire un petit kiff, quoi, en gros. Quoi.
Elle est pas mal, sa vie. Hein.
Oui. Oui, d'autant que dès qu'il arrive au truc, toutes les meufs sont en pamoison à pousser des cris en disant, oh mon dieu, c'est Tony Stark, il est là.
Elle est vraiment pas mal, sa vie. Elle est très très bien, sa vie.
C'est l'Audi R8 qui te fait dire ça.
L'Audi R8, l'armure, la baraque.
Le placement de produits Bulgarie.
Voilà, la montre Bulgarie, elle est magnifique. Ouais.
Ah bon?
Ah ouais,
mec, je trouve ça moche.
Moi, je la trouve moche. Mais c'est plus le placement tout le temps avec l'Audi R8.
Mec, je pense que autant porter une chaîne autour du cou avec marqué j'ai du pognon. Quoi, tu vois, c'est dingue.
Surtout que là, moi, il n'en a pas besoin. Quand tu vois toute sa maison, tu vois toutes les œuvres qu'il a, les bagnoles.
Non, mais c'est bien quand on le rappelle un petit peu. Okay. Tu vois, que voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe à cette soirée?
D'abord, petit caméo de Stan Lee à l'arrivée.
Oui, ça nous offre le premier caméo de Stan Lee.
Hugh Hefner.
Et celui-là, il est marrant quand même, je trouve. Il voit un mec en peignoir. En fait, et qu'a les cheveux gris, et du coup, déduction, c'est Hugh Hefner.
John Favreau, bon réalisateur.
Dans celui-là, oui.
Dans un certain style de film.
C'est lui qui a fait le 2 aussi, hein.
Oui, tout à fait.
Ouais. Et le 3, c'était pas lui.
Non, c'est Shane Black.
Ouais.
Bon, par contre, il a fait Le Roi Lion, il a fait Le Livre de la Jungle.
Ouais. Il a fait une comédie où il est chef cuisinier, qui est vachement bien.
Ouais,
j'aime bien,
ouais. Je l'ai vu celle-là. Ouais.
Et puis après, il a fait beaucoup d'épisodes aussi de
Mandalorian
aussi après là.
C'est vrai.
Mais... Donc, oui, premier caméo de Stan Lee.
Oui. Oui, et puis surtout, après, on revoit le fameux agent Coulson, qui était déjà là à sa première conférence de presse.
Il bosse pour quelle entreprise, Charlie?
Le bureau habilité stratégique, intervention, exécution et logistique défensive.
Nul.
Comment ça, nul?
Comme non. C'est ce que dira Tony Stark, d'ailleurs.
Oui, c'est nul. Mais ça mériterait d'être plus court. Mais moi, ça m'a fait marrer de revoir le... Je me souvenais plus du tout de Coulson, ce personnage. Ouais.
Non, mais tu vois, c'est en fait ce que j'apprécie, en tout cas, quand tu remates Iron Man, c'est qu'à l'époque, il te balançait des petites graines qui allaient être bien semées, plutôt que des gros clins d'œil vraiment.
Ah non, mais c'est subtil.
En marqueur.
C'est pour ça que toute cette partie-là, moi, je trouve, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de Thanos, franchement, c'était vraiment bien.
Après, tu sens qu'il y a eu la partie Avenger,
ouais.
Tu vois, jusqu'au premier Avenger, et après, ils ont commencé à migrer vers les pierres d'infinité.
Parce qu'après, les mecs se sont dit, attends, ça cartonne, on y va quand même.
Ah, ils avaient quand même déjà réussi à faire un gros bif, réussir à sortir déjà jusqu'à la partie Avenger, c'était lourd. Quoi.
Juste le premier, ouais. Et là, en fait, il s'avère que Tony, putain, il voit une meuf de dos.
Oui, et quel dos.
Et quel dos, ouais, c'est clair. Et il a toujours pas senti la bougie de sa chatte. Hein. Non, ça, c'est quand même quel incroyable.
Quel dos dans son cadeau, d'ailleurs.
Oui,
puisque c'est la robe qu'il lui a offert.
C'est ça.
Et puis surtout, il se rappelle que c'est son patron, que ce serait bon moment d'aller l'harceler en fait. Quand on... Parce que,
alors, titu, ça
c'est limite ça en fait. En gros, du coup, il va la voir. Elle, je pense qu'elle est pas prête. Et surtout qu'elle s'attendait pas à être dans cette robe, à voir Tony. Surtout que son patron lui dit vous savez quoi? On va danser. Ouais, bien sûr. En fait, non, c'est vrai qu'aux États-Unis, ça m'a fait marrer, ça, ce genre de relation.
Je sais pas, si c'est
quand tu danses avec ton employé,
quand même,
c'est compliqué.
Comme,
entouré en plus de tous tes employés.
Ouais. Elle va avoir une promotion, c'est assez sûr.
Ouais, après, techniquement, ça peut se faire, mais quand le mec se vante partout d'avoir déglingué dans une seule année tous les mannequins Playboy, effectivement, c'est peut-être pas approprié.
C'est clair. Il danse avec, ça va s'isoler sur le balcon.
Ouais, pour décrypter le truc, parce qu'elle, elle est un peu chafouin. Elle se dit, il va y avoir des commérages, tout le monde va dire nanani, nanana.
Alors que bien sûr que oui, on aurait tous fait ça, bitché dessus à fond. Dire, ça m'étonne pas.
Hein. Et surtout que dans le même moment, du coup, elle est en doute, mais elle se dit, il y a un moment quand même, il est là. Et là, il y a tentative de bisous.
Ouais. Mais alors pourquoi il s'embrasse
pas? Pourquoi est-ce qu'il s'embrasse pas? Je pense que c'est Tony qui esquive parce que Tony se dit.
Non, il esquive rien du tout.
Mec. Ah, moi je pense que c'est Tony qui esquive.
Ah, elle ferme les yeux, elle s'approche de lui. lui il est comme ça, les yeux un peu fermés.
Je sais pas ce qui se passe,
et puis ils s'arrêtent tous les deux.
Moi je comprends pas. Soit c'est les deux, soit pour moi au dernier moment c'est Tony Casey parce qu'il dit c'est peut-être pas une bonne idée.
Peut-être après elle avait une haleine de merde aussi. Hein, donc c'est pas. Non mais attends, ça.
Non, non, je sais pas. J'ai l'impression que c'est elle qui, même, qui arrête le mouvement, qui va pas jusqu'au bout du mouvement, tu vois.
Et du coup tous les deux leur réflexion, moi en revanche me fait rire, c'est faut vraiment qu'on boive pour qu'on y arrive. Ça c'est vraiment la vraie.
Deux gamins de 14 ans.
En général ça aide pour les relations de travail, c'est clair.
Eh ben justement, en parlant de boire un coup, Tony retourne au bar, retombe sur son ex-journaliste.
Élise Lucet.
Et du coup, c'est ça. Et qui va lui apprendre que Stark Industries vend toujours des armes. Et ça, ça lui plaît pas du tout. Surtout lorsque Jeff Bridges dit bah ouais, mon gars, tu t'attendais à quoi?
Surtout vend des armes, mais surtout vend des armes aux méchants, en fait, quoi, en gros. Quoi.
Ah oui. Oui, parce que quand tu vends aux Américains pour tuer des Afghans, ça, ça va. Mais quand tu vends aux Afghans pour tuer des Américains, c'est
toujours bon pour le porte-monnaie, hein, y a pas de souci. Mais voilà.
Et là, il est un peu colère, et du coup, bah, il chope Obadiah qui est là. Il lui dit, et Obadiah, qui est un malin, quand même, lui dit bah, tu sais quoi, attends, vas-y, on va faire une photo auprès des journalistes. Et là, discrètement, il lui dit mais mec, tu t'attendais à quoi? Moi, je vends en deux, je fais du bif, et puis c'est comme ça.
Oui, puis il lui dit aussi c'est moi qui essaye de te virer de la tête de l'entreprise.
Exactement, c'est moi qui ai demandé l'injonction également. Et puis, tu comprends qu'en fait, bah, il est pas si cool, en fait, quand.
Oui, bah,
Qu'il sent qu'il est en position de force, là, quand
même. Oui, Zilote, c'est bon, il est moitié fini, quoi. Là, du coup, Tony, il est vénère, il rentre chez lui, et il allume la télé. Et là, ce qu'il voit aux infos, ça lui plaît pas du tout, parce qu'il s'avère qu'on est en train de parler du Club Molla.
Du Club Molla qui a plein de missiles Jericho, en plus. Franchement, ils sont bien équipés.
Oui,
hein.
Qui fait toujours dans le, dans le paysagisme, et donc qui nivelle les montagnes à coup de grands missiles Jericho.
Et qui a envie de devenir un petit peu paysagiste des États-Unis.
Mais moi, ce qui me fait marrer surtout dans ce truc-là, c'est que du coup, t'as la télévision qui dit « Regardez, les Afghans ont des missiles Jericho. L'armée américaine, on a rien à foutre. » C'est juste les journalistes qui font le truc. C'est un peu bizarre, quand même.
Ils tirent sur des civils. Et pas sur des militaires américains.
C'est pour ça qu'ils sont pas les couilles totales, en fait, c'est bien.
Donc là, Tony, il est vénère, il est un BFM, il descend direct dans son garage,
il met un gant,
et là, il y a un plan, là, il y a quelque chose. Qu'est-ce qui se passe?
Bah là, pour la première fois, il revêt son armure, on lui met son armure. Voilà, t'as un chevalier qui part, tu vois, à la bataille, ce héros.
Là, t'as un héros qui est né.
Et ça, je suis désolé, il y a des scènes qui sont bien, sauf le masque, où à un moment donné, quand même, tu vois que c'est un peu vieilli quand même en termes d'image, c'est un peu dommage.
Et donc là, on voit enfin pour la première fois l'armure d'Iron Man rouge et or, et il s'arrache direct, et il s'arrache pas pour rien.
Bah, il va baiser des culs en Afghanistan.
c'est exactement ça.
Direction Club Molla.
C'est clair. Bah, du coup, il arrive, il commence déjà à jouer avec ces trucs qui sont des répulseurs pour niquer des gars. Ouais. Juste après, bah, les mecs sont intelligents, on se dit ok, d'accord, tu viens protéger les civils, bah, du coup, bah, on va tirer sur on prend en joue les civils. Le gars, il fait ok, bah, je ne tire pas. Je vais laisser juste mon armure faire le taf à ma place. Non, ça c'était quand même stylé.
Je fais une petite
ça.
Parenthèse, tu parles des répulseurs. Et autant je trouve que le plan iconique de la caméra dans le casque où tu vois son visage, ça c'est vraiment un plan qui appartient pour moi en tout cas à Iron Man. Et je trouve que réussir à marquer dans les bruitages, c'est évident.
C'est vrai que t'as raison. Maintenant, c'est vrai que c'est
parce que
important.
Les bruitages de Star Wars, Dragon Ball, tu les as, mais alors.
Il faudrait qu'on le garde pour les catégories à la fin, ça, parce que je l'avais mis dedans dans les trucs qui avaient bien vieilli.
Je suis d'accord avec Thomas, en revanche, il a raison, c'est une empreinte sonore. Tu as ce bruit,
bah,
tu sais que c'est...
Pas la fin,
mais si, tu pourrais le dire, mais maintenant tu entends ce bruit,
c'est
bruit
comme
de
sabre
laser,
c'est
tu connais,
ça.
Et ça tu connais.
Et puis Tony, alors pareil, petite scène, le plan est stylé, il est drôle, un peu Jackie mais stylé, il y a un tank qui arrive.
Alors ça c'est pas logique en revanche, je suis désolé. Bah en fait derrière, bah du coup il nique les mecs, il part, il redécolle, et là il y a un tank qui décide de tirer en l'air et qui arrive à le shooter. C'est pas du tout probable.
Faut être doué.
Ouais.
Faut être très doué.
Bon enfin bref, mais du coup...
C'est le mec dans le tank, oh putain. Eh hey gros, je l'ai eu.
Là, c'est vraiment du tir au pigeon, une chance sur un milliard.
Parce que même si ton armure est résistante, tu te prends ça même dans l'armure. Hein. Je veux dire, il doit y avoir une vibration. Enfin, normalement, je pense que tu.
Ah bah d'un pur point de vue physique, il devrait être mort 15 000 fois. Hein, parce que t'as beau porter une armure, ou d'un
t'éclates à l'intérieur.
Quand tu passes de 300 km/h à zéro en une demi seconde, tu t'écrases quoi qu'il arrive.
Et puis alors surtout, ce qui me fait marrer, c'est un peu
Iron Man dans la vraie vie. Au premier atterrissage,
c'est du ketchup, hein, franchement.
C'est ça. Bah, l'armure est rigide, mais par contre, tu l'ouvres et t'as une espèce de
soupe.
Bah, c'est Robert Downey Jr.
Ouais, c'est clair. Mais du coup, ça justifie après, du coup, totalement le plan badass derrière. Ouais. Bah, le tank, là, il se relève doucement.
Ouais.
Là, il sort un missile. Et après,
le tank retire un obus, un gros obus.
Ouais,
Iron Man, il l'esquive. Et là, tu vois, Iron Man, tu dis, ouais, il va sortir une arme de ouf. Mmh. C'est un tout petit missile, c'est un cornichon, le truc. Il part sur le tank, Iron Man il le regarde même pas, il marche et au loin tu vois le tank qui explose derrière.
Cliché,
franchement ça passe.
Cliché
ouais,
badass.
Bah ouais, bon, c'est marrant, c'est clair.
Et bah, juste après ça, bah, il est temps de rentrer.
Oui, alors ça va être un peu compliqué pour
moi. Parce que les Américains se réveillent.
Ouais.
Parce qu'ils commencent à voler visiblement dans une zone restreinte.
Ouais.
Et là ils s'activent en disant putain, mais il y a un truc bizarre qui est en train de. C'est pas un ovni, mais ça va vite quand même, on sait pas trop ce que c'est. On va voir des. Comment. Des chasseurs pour voir ce que c'est.
Des F-22,
donc ils appellent, tu sais, ils s'appellent entre services ouais. À Michel de la Conta, à l'auto FBI, à CIA, est-ce que c'est vous qui faites de la merde en Afghanistan? Et bah non, écoute, c'est pas notre matos.
J'ai pas eu de pétrole, donc c'est pas nous.
Voilà. Et donc ils appellent le fameux Roddy,
ouais.
Qui leur dit, attendez, j'ai peut-être une idée sur d'où ça
peut venir. Je connais un gars voilà. Qui connaît un gars qui connaît un autre gars.
Je vais appeler le génie milliardaire qui fabrique des armes.
En pleine descente, voilà.
Et il s'avère que, bah, du coup, Tony Stark lui répond depuis l'armure ouais. Et lui balance un petit mytho du style
Je suis en train de courir.
Oui, non, je suis en train de rouler sans la capote.
Ouverte, voilà,
ça n'a rien à voir avec moi.
Et là, son pote, il lui dit bah, écoute, tant mieux que ça n'ait rien à voir avec toi parce qu'on va tirer dessus en fait. On compte le buter. Donc, nickel, me voilà rassuré. Et là, s'engage un combat aérien.
Oui, avec des F-22.
Petite roquette d'abord.
Petite roquette, petit leurre. Enfin, voilà, il arrive à se planquer en dessous d'un fuselage. Donc là, ils sont tous en train de se dire « Putain, mais il a disparu, tu vois. » Et donc, ils rappellent. Ouais. Je ne sais pas quel forfait ils ont, mais les appels internationaux entre l'Afghanistan et les...
Ouais, je pense qu'ils s'en bat les couilles, je pense. Grave.
Ouais, ça, on verra bien. Mais,
en tout cas, ce qui est marrant, c'est qu'entre les différentes armures, la partie son isolée, elle a beaucoup progressé. Quoi, tu vois. Entre le 1 et le 2, maintenant, ils passent des appels, il n'y a plus de problème, tu vois. Il n'y a plus de problème de son, coupé, etc.
Ouais, ouais, donc là, Tony rappelle son pote Roddy en disant ouais, papa, en fait, bon, j'étais pas vraiment en voiture et la capote était pas vraiment ouverte. C'est-à-dire, en fait, le gars, c'est moi. Comment ça? Le mec que t'essayes de buter, c'est moi. Faut arrêter. Au moment où il dit ça, le chasseur commence.
Pour le scénario,
oui, bien sûr.
Parce que là, aucun intérêt, c'est clair.
Le chasseur commence à vriller à gauche en se retournant, ce qui fait que le deuxième chasseur aérien tourne la tête. Il dit attends, voir, il y a un putain de moustique rouge et doré au cul de mon pote. Et là, c'est parti.
Bah là, du coup, il lui dit bah, fais des tonneaux. Bah le gars fait des tonneaux. Le gars qui était en attente a dû se dire bah tu sais quoi, je vais patienter juste derrière parce qu'après les tonneaux bah je vais le prendre dans la gueule en fait quoi.
Mais... Trop américaine là ça. Non, ça trop ça. Le truc vas-y.
Mais bon cliché du coup bah en partant là aussi pas logique parce que du coup Iron Man quand même arrive à arracher une aile de F-22, ça lui fait rien. Moi je me suis dit bah il est coupé en deux au moins tu vois mais.
Ah bah mec tu prends un obus de tank ça te fait rien, c'est pas une aile qui va te.
Oui on n'a plus un accord en spray.
Enfin bref il est solide et bah l'avion qui part bah pour s'écraser le pilote arrive à s'éjecter. Seulement, malheureusement, son parachute ne s'allume pas. L'autre colonel, pas le gentil Roddy, bah, lui dit bah, « De toute façon, il vient de buter un de mes pilotes, donc bah, vas-y, tire-lui dessus, en gros, quoi. Tu as l'autorisation. » Et là, Iron Man prend tout son courage à deux mains et décide de foncer et de réussir à retirer le parachute et bah, il rentre tranquille, en gros. Quoi.
C'est ça. Et il demande juste à son pote, quand même, Roddy, de dire bah, « Écoute, tu balanceras un mytho à la presse parce que là, il va falloir que tu me couvres. Ouais. » Chose que Roddy va faire et malheureusement, Jeff Bridges, il voit l'interview de Roddy à la télé, il dit «
Est-ce qu'on serait pas en train de me mentir hein ?
Parce que c'est vrai que c'est le genre d'information où t'as un truc qui se crache. Ils font des pataquès aux États-Unis quoi.
Oui,
c'est vrai que l'information random.
Pas non plus la logique, mais
tant mieux pour le scénario.
Mais en tout cas, ils décident d'aller voir bah, les gars qu'il avait engagés.
Le géo du Club Med, voilà.
Ouais.
Parce qu'on réalise qu'en fait, le fameux B2O, enfin Harvey Dent, là, parce qu'il lui manque une partie du visage maintenant.
Ah bah oui.
Et ben en fait, c'est Obadiah qui les avait engagés pour qu'ils se débarrassent de Tony Stark.
Quelle
et
surprise.
Qu'au moment où les mecs se sont rendu compte que c'était Tony Stark, ils ont dit ah bah mec, c'est plus le même prix maintenant.
Ouais.
Parce que.
Bon, on peut avoir des missiles gratos.
Bah oui, on pourrait avoir des Jericho carrément mais donc il vient récupérer en fait l'armure qu'ils ont reconstituée et il les tue tous
oui
avec un petit appareil voilà. Voilà qui permet de comment
petit appareil une espèce de un petit bip de voiture
voilà,
qui va te péter les oreilles
mais
en
moi,
fait
ce qui me fait marrer c'est que quand même les mecs deviennent en fait juste à vide parce que tu comprends qu'ils ont des missiles Jericho donc ils ont eu en fait ce qu'ils voulaient avec Tony ouais. Stark. Mais comme ils ont vu qu'il y avait possibilité d'avoir l'armure d'Iron Man, ils disent bah non, alors, nous on nous a encore montré vraiment la version 11 de la Fun, vas-y on le veut maintenant.
Bah,
gros,
il le dit dans son espèce de discours dans la grotte, la technologie c'est le plus important pour dominer. Donc,
il y a en gros ce qu'il dit, il lui faut 10 armures pour qu'il domine le monde.
12,
excuse-moi.
Ah, ton anglais est approximatif. Alors là quand même Jeff il récupère le prototype qu'avait utilisé Tony en sortant de la grotte. Et direction, retour aux States pour lui. En revanche, retour chez Tony Stark où Gwyneth va s'entretenir avec Tony.
C'est, ça doit être compliqué pour elle parce qu'à chaque fois qu'elle descend dans l'atelier, il se passe un truc bizarre quand même. C'est soit elle vient de dégager un de ses bails qu'il n'a pas voulu dégager lui-même, soit elle lui plante la main dans la poitrine pour lui enlever un aimant couvert de trucs gluants.
C'est un donjon en fait.
Soit elle arrive, il est couvert d'un pack de balles, ou alors il lui demande de faire de l'espionnage industriel. Enfin, c'est tout le temps une histoire de. Elle doit, franchement, elle doit stresser à descendre les escaliers.
Chaque fois
quoi.
Qu'elle descend les marches, je suis putain.
Qu'est-ce que ça va être ? Qu'est-ce que ça va être ?
Et là, en l'occurrence, elle descend les marches, ils vont discuter ensemble et ça nous donne ça.
Vous êtes occupé ? Je peux vous confier une mission ? Allez dans mon bureau. Introduisez-vous dans le système. Récupérez les dernières proformas d'expédition. Voilà une clé électronique pour y accéder.
Je suis agent secret, donc.
Si jamais c'est pas dans les dossiers administrateurs, c'est qu'ils l'ont mis sur un disque dur fantôme. Commencez par les plus petits numéros.
Je peux savoir ce que vous ferez de ces informations si je les récupère ?
La routine. Il joue double jeu et je compte bien y mettre un terme. Je vais trouver mes armes et les détruire.
Tony. Vous savez que vous pouvez me demander n'importe quoi, mais je regrette, je refuse de vous aider si tout ça doit recommencer.
Je n'ai plus rien. Plus rien à part ça. Plus de vernissage, de gala de charité, plus de papier à signer. Je n'ai que cette nouvelle mission. Et rien d'autre.
Et rien d'autre.
Sous-entendu,
et
moi.
Bien, je démissionne.
Vous m'avez approuvé toutes ces années alors que je recueillais les fruits de la destruction. Et maintenant que je veux protéger les millions de gens que j'ai mis en danger, vous me laissez tomber.
Vous allez y laisser la vie, Tony. Je refuse d'y participer.
À quoi sert d'être en vie ? Si on n'a pas de raison de l'être. Je ne suis pas fou, Pepper. Je viens seulement de comprendre quelle est ma mission.
Quelle est votre mission ?
Ah, ouf. Mon cœur, je sais qu'elle est juste.
Bah, du coup, la seule mission de Tony, c'est de débarrasser le monde des armes qu'il a créées.
Oui, voilà. En fait, c'est de nettoyer sa merde, quoi.
Tu peux sortir ma poubelle ? Du coup, elle accepte.
Je viens de nettoyer la merde que j'ai chié en plein milieu du salon. On peut dire que je suis un héros ou pas du tout ?
C'est un peu l'idée, c'est ça. Ouais,
du coup, elle accepte la mission, à savoir récupérer des dossiers dans les locaux de Stark Industries. Elle fouille l'ordinateur de Tony, elle tombe sur des fichiers, et là...
Ah bah ça tombe bien. Alors ça tombe bien parce que Obadiah donc, a décidé de conserver sur les disques durs de l'entreprise tous les fichiers qui permettent de l'incriminer en cas de poursuite judiciaire.
Le monde est bien fait. Hein.
Ah bah bon, après, techniquement, il utilise une clé qui déchiffre tout aussi. Bon, après, voilà, mais...
Je crois que c'est une clé qui permet de rentrer sans le code.
C'est ça, sur tous les serveurs. Ouais, mais bon, c'est quand même un peu simplifié, c'est quand même un peu débile, on est d'accord.
Tout et il s'avère qu'au moment où elle est en train de télécharger les fichiers, le fameux Obadiah rentre dans le bureau, tu vois,
sans faire de bruit quand même. Hein.
Ouais, en lui mettant un petit coup de pression, on sent que le mec a des doutes.
Ouais.
Et donc il s'approche d'elle comme ça, alors que les fichiers sont en train de charger et tout. Un petit,
par contre, on est en 2008 là-dessus.
C'est-à-dire
les fichiers. Oui, c'est ton ordinateur qui fait plip, 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 plip,
ah oui, oui, non, mais ça, c'est toujours dans le film. Et donc, elle a juste le temps de mettre l'économiseur d'écran. Et donc, là, il arrive en disant oh, tiens, vous venez au bureau de Tony Stark pour regarder l'économiseur d'écran. Bah, c'est une riche idée.
Alors, j'avoue si vous voulez, je peux vous envoyer 2-3 autres photos. Hein, y a pas de
c'est
problème.
Pas suspect du tout. Mais voilà, elle arrive à récupérer
la clé USB
avec tous les fichiers. Et ce brave Obadiah, quand même, réalise qu'elle vient de le
niquer.
Et la mauvaise, parce qu'il dit attends, voir. Du coup, elle m'a niqué. Je peux pas la buter devant tout le monde. Il va falloir que j'accélère mes projets parce que, à mon avis, Tony il va pas tarder à être au courant. Si tu vois qu'est-ce que je veux dire.
Bah, carrément. Et elle tombe sur Phil Coulson du bureau stratégie et intervention, habilité, défense, exécution, logistique défensive.
Donc le gars du Shield.
Exactement.
Qui, du coup, la soulage bien d'un point parce qu'elle est en train de se dire putain, il va clairement me buter. Mais heureusement, maintenant j'ai des témoins, donc ça va, j'arriverai à m'en sortir. Et Obadiah, lui, décide du coup d'aller mettre un gros coup de pression aux ingénieurs qu'il avait engagés dans le secteur 16 pour faire une armure.
Oui,
et
pour copier l'armure d'Iron Man.
Mais c'est des potes du secteur 7 de Transformers.
Excellent. Mais du coup, ils ont un petit problème, c'est qu'ils ne sont pas Tony Stark et ils n'arrivent pas à miniaturiser en fait le réacteur qui est juste devant leurs yeux en fait.
Ce qui a tendance à énerver Jeff Bridges parce qu'il dit attends voir, moi le gars il était dans sa grotte avec 3 épingles et 2 élastiques, il a réussi à le faire.
Ouais, bah, mais ils sont pas Tony Stark. Justification logique en fait.
Exactement. Je te donne les pinceaux et les couleurs de Van Gogh, Thomas.
Exactement.
Voilà. Pas Van Gogh,
oh, bah, je ferai de la merde. Hein.
Bah, bien sûr.
Mais ce sera ta merde.
Et
beau.
Ça, voilà. Et je la vendrai cher. Alors, ensuite.
Bah, du coup, c'est à ce moment-là que Obadiah se dit ok, d'accord, je peux pas avoir le réacteur de Tony. Je vais aller le chercher en fait. En gros.
C'est clair.
Je vais gagner du temps. Allez hop là.
Et je vais réutiliser la même technique que j'ai utilisée contre Booba. Donc, le paralyseur. Moi, ce que j'aime bien avec cette arme, c'est qu'elle est hyper bien. Elle est hyper cheatée. Elle ne sera jamais réutilisée dans les 25 autres épisodes.
Pour le coup, tu calmes tout le monde avec ça.
Elle meurt avec l'antagoniste du film.
Bah non, parce que c'est Tony Stark qui l'a créé en fait, donc c'est pas logique en fait.
Parce qu'il lui dit en plus, tu vois, cette arme que t'as jamais cru en son potentiel.
Dommage que le gouvernement l'ait pas validé. Donc en gros,
parce qu'on soit d'accord, c'est, je le répète encore, c'est une espèce de petite télécommande, t'appuies dessus, ça te pète les oreilles, ça te paralyse en fait.
Paralyse pendant 15 minutes.
Bah justement, alors il le paralyse.
Oui, il récupère le cœur.
Oh, vous l'avez dit en cœur.
Chips.
Et puis, bah, comme tout bon méchant, au lieu de se contenter simplement de récupérer le cœur, il est obligé de balancer son plan et de dire toute la vérité.
Ouais, c'est clair. Oui, voilà. Et puis surtout, après l'avoir laissé en train de mourir, il aurait pu le finir d'une balle dans la tête. Oh, c'est bon, il va crever, je me bats en fait. Quoi, c'est pareil. J'ai pas envie de l'achever. Bah, il devait peut-être pas se dire qu'il avait un deuxième cœur de rechange aussi.
J'aurais d'autres
questions
sur cette scène, mais on en reviendra plus tard.
Et là, Tony, il est vraiment dans le mal parce que
il est en bad.
Il est paralysé et il a plus de cœur.
Oui. Il a plus de poumons en fait. Il a plus d'électro-aimant. Oui.
Mais il se rappelle qu'il a un cœur et qu'il est en bas dans l'atelier.
C'est ce que lui avait offert Gwyneth Paltrow. C'est
exactement.
C'était pas une bougie de son vagin.
Est-ce qu'elle lui offrait pas également techniquement elle son propre cœur?
Ah bah si, après on peut le voir des deux façons aussi.
Tu vois, je te donne mon cœur pour que tu puisses vivre. Viens avec moi si tu veux.
Excellent.
Ferme ta gueule.
Et là il descend tant bien que mal dans son atelier.
Oui.
Pareil scène, bon elle passe mais tu dis.
Si elle est sympa cette scène. Elle est sympa.
C'est-à-dire qu'il est sauvé par son
robot débile.
Ça c'est chouette. Mais je veux dire, il a la dernière force pour claquer le truc et pas pour choper.
Si
il arrive à le mettre. Mais après derrière, en gros, je pense qu'il a quand même besoin d'un petit temps de latence pour regagner du
pep. Tu t'en mets pas comme ça d'une.
Parce qu'à la base, quand même, c'était des trucs qui étaient en train de se diriger de plus en plus vers son cœur. Donc peut-être que ça les a arrêtés. Mais du coup, le temps de les arrêter, quand même, ils ont quand même bien progressé quoi.
Et qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a Gwyneth qui appelle.
Oui, Gwyneth appelle Roddy pour lui dire comment que Obadiah est un traître. Donc ce brave...
De toute façon, il était chauve.
Oui, ce brave Roddy donc, va vers...
À Malibu.
Va à Malibu pour sauver Tony Stark.
Chez Tony, ouais.
Et Gwyneth, avec cinq agents du...
Et courageuse, moi je trouve quand même après.
Du bureau stratégique machin mes couilles, Shield, donc.
Décide d'aller au secteur
16. Décide d'aller visiter le secteur 16.
16, pardon.
Pour découvrir l'armure. Alors, on la voit avant. Et c'est imaginez le géant de fer mais en version énervée. Genre, il est revenu se manger et il est vraiment vénère. Il est vraiment très vénère.
Le vénère de fer.
C'est plus le vénère de fer parce que le géant de fer est gentil mais là c'est clair.
Et bah voilà, mais là il est revenu. Là il est revenu, il est pas content. Et
le problème c'est que oui, parce que le réacteur qu'a chopé Jeff Bridges, bam, il l'a claqué dans le vénère de fer.
Dedans,
et là, ce qui est fort c'est que lui-même en rentrant dans le robot, bim, il sait parfaitement le manœuvrer, il maîtrise. Hein.
Ouais.
Ou alors peut-être que c'est très intuitif, c'est comme un iPhone en fait. Attendez, cherche les messages. Ouais. Mitrailleuse, attendez, c'est j'ai tapé deux fois, c'est bon.
Dis Siri, active les mitrailleuses tout de suite.
Je pense qu'il jouait pas mal à Titanfall et
ouais,
du coup il a les références.
Et du coup il se dit tu sais quoi, j'allais la buter, elle vient à moi, du coup je vais essayer de la buter. Seulement ce qu'il a pas calculé c'est que l'armure elle passe pas par les petites portes et du coup
c'est le problème d'avoir un trop gros engin ça.
Après le seul truc que je me pose comme question c'est qu'en gros c'est la seule qui arrive à quitter la porte et Coulson qui est dans, enfin l'agent Coulson qui est dans le truc, bon tu penses qu'il est buté mais en fait il est pas mort.
Ah, peut-être qu'ils avaient prévu de le buter là, parce que.
Qu'il reviendra dans plusieurs films et une série. Donc,
Il y a une scène cachée à la fin du film.
Mais on y reviendra.
Voilà, on y reviendra après, mais ils avaient peut-être plus besoin de lui à ce moment-là.
Là, Roddy, il arrive chez Tony, et du coup, il l'aide un peu. Il lui fait quoi?
Non, il lui met un petit coup de pied dans le.
Il est juste témoin, quoi.
Ouais, voilà, il lui met un petit coup, et puis l'autre se réveille en disant oh, il faut que j'aille sauver Pepper.
Pareil, donc là, Tony commence à enfiler son armure, il s'arrache. Petit clin d'œil pour la suite, où Roddy commence à regarder une autre armure qu'il utilisera dans les autres films, enfin son personnage, pas l'acteur, War Machine.
Exactement.
C'est clair. Ce qui a une incohérence, parce qu'on est d'accord que toutes les machines sont alimentées par le cœur de Tony Stark.
Oui,
donc
oui,
normalement,
donc,
aucune machine ne peut fonctionner sans Tony Stark. Donc bon, ça fait marrer.
Donc il aurait pu se mettre dans le truc et faire décollage comme ça. Il serait resté comme un con dans l'armure.
Enfin bref, petit détail. Et du coup, Tony part et pile poil à ce moment-là, Obadiah se dit tu sais quoi, je vais passer par le sol.
Ouais.
Et il tombe sur Pepper. Il commence à utiliser ses canons, mais c'est toujours des machine guns, donc elles prennent un petit peu de temps avant de fonctionner.
Exactement.
Pour le scénario aussi,
il balance des petites répliques du style on n'a plus besoin de vos services. Vous êtes licencié.
Et c'est pile poil à ce moment-là que Tony arrive et là bataille entre armures en gros quoi.
Exactement.
Sur l'autoroute.
Mais le problème c'est que Tony son cœur, il est pas à puissance max quoi.
Ouais,
donc du coup l'armure, elle est pas à son maximum. Alors que l'autre,
puis l'autre, elle a des upgrades aussi. Hein.
Ouais. Après, voilà, on a deux philosophies. On a donc l'armure d'Obadiah qui est un peu une déclinaison de celle qu'il avait en Afghanistan, ouais. Donc, qui mise tout sur la puissance, et, mais pas la mobilité. Et par contre, Tony Stark qui est plus, tu vois, sur l'agilité.
Pour ceux qui ont suivi Dragon Ball, vous savez très bien qu'il va y avoir une importance.
Exactement.
À ça.
Exactement.
Combat sur l'autoroute où on a encore le droit à un placement Audi parce que bon, on n'en avait pas vu assez. C'était quand même l'Audi de trop, ça, avec les gosses.
Ceci dit, on en voit moins que dans Tekken. Hein.
Au bout de la deuxième, c'est déjà trop.
D'accord. Enfin bref, du coup, après derrière, il l'envoie dans un bus, il l'envoie dans une roquette dans le bus, ce qui fait un petit salto à Tony Stark. Et là, Tony Stark se dit, bah attendez, mais je sais quoi, je vais lui montrer que moi je sais voler.
Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de dommages collatéraux. Il y a beaucoup de décès, hein, je pense, dans les civils, ouais, mais pense, à aucun moment on ça, en fait
référence. Mais parce que je doute en fait. Que tout le monde ait réussi à sortir du bus, par exemple. Ouais, voilà. Alors certes, c'est de nuit, il n'y a peut-être pas beaucoup de monde dedans, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a au moins...
C'est clair, le bus bloqué sur l'autoroute...
Au moins le chauffeur,
ouais,
ou
ah,
le
oui,
chauffeur,
oui,
il
passe carrément.
Et du coup, il se met à voler. Et là, du coup, je pense que dans sa tête, Tony doit se dire, c'est bon, de toute façon, il a pas dû mettre des propulseurs, je vais le niquer en étant en l'air. Et là, il dit, ah, t'inquiète, j'ai l'upgrade. Et bah, du coup, en revanche, on va aller faire un petit coup de gel de Tchekhov, préparation paiement.
Alors, ce qui est chiant, c'est qu'en effet, Tony, il est surpris de voir l'upgrade de l'armure de Jeff Bridges. Et puis surtout, t'as Jarvis qui lui dit, gars... L'armure, là, au niveau du pourcentage, c'est très mauvais. Hein. On est en dessous des seuils des 10%.
Oui, parce que... Ça fait une sorte de minuteur, en fait.
Ouais, ouais. Parce que son vieux cœur n'est peut-être pas suffisamment costaud pour supporter l'alimentation d'une armure aussi élaborée. Ouais.
C'est ça.
Et surtout, pas pendant aussi longtemps.
Donc là, Tony, il dit, tu sais quoi, le tout pour le tout. Fondamentalement, mano à mano, j'arriverai pas à le péter. Il est trop puissant. Donc, vas-y, on va tenter un petit coup de bluff. Et là, il va le plus haut possible. Là, t'as Jeff Bridges qui dit, ah, mais t'inquiète même pas, moi aussi, je sais voler. Et il le rattrape, et là, t'as Tony qui pense être malin en lui disant « Ah ouais, ton armure elle est peut-être bien, mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que t'en penses, toi, du givrage ?» Et là, du coup, Jeff Bridges, il comprend pas, et vu qu'ils étaient trop en hauteur, en effet, tout commence à givrer, et tout le monde redescend.
Bah, pas la sienne, parce qu'il a inclus une option de givrage maintenant.
C'est ça.
Mais celle...
Bon alliage, en fait. Apparemment, celle d'Obi, tu gèles pas.
Elle gèle, et du coup, il tombe. On le voit chuter.
Oui, pour le coup,
Et pas de réflexion sur comment, lui, il arrive...
C'est ça.
Survivre.
Et puis même quelque part.
C'est le méchant, il faut qu'il revienne tout de
suite. Oui, non, mais le film aurait pu se stopper là au niveau du méchant, parce que tu dis oh, ok, d'accord, parce que tu le vois qu'il va s'éclater au sol. Tony qui se pointe en disant bon, bah c'est bon, tout est fini, tout est nickel.
Il commence à retirer son armure parce qu'il est en train de se dire qu'il a plus de puissance et qu'il va pas pouvoir la retirer. Et que en fait, ça c'est pareil, c'est un truc que je comprends. Il commence déjà à retirer son armure avant de voir que le méchant arrive. Du coup, il la retire parce qu'il pense qu'elle va être trop lourde et qu'elle va l'handicaper.
Et puis qu'on soit d'accord, hein, Jeff Bridges y revient, mais comme si de rien ne s'était passé pour
lui. Clair.
Bah, visiblement, il a eu la même. Enfin, il a réussi à se dégivrer à 50 mètres du sol aussi, il est reparti comme l'autre.
Comment on fait pour le buter finalement, ce gars ?
Eh bien, il s'avère qu'il faut qu'on surcharge le réacteur ARC qui se situe en dessous avec l'aide de Pepper Potts, qui visiblement connaît le réacteur par cœur, parce qu'elle le manipule sans aucun problème.
Elle arrive à trouver
le
bon bouton direct.
C'est avec ça que je fais mes bougies.
Donc voilà, il se fait un peu tabasser en haut, il gagne du temps, et puis elle finit par surcharger le réacteur, et donc elle neutralise l'armure de Obadiah qui tombe dans le réacteur et qui explose et meurt.
Et Tony s'en sort miraculeusement, j'ai envie de dire.
Après, ce qui est marrant, du coup, c'est que t'as son cœur, je trouve, qui fait son cœur électronique, qui a du coup les mêmes rythmes cardiaques qu'un autre cœur, en fait, à la fin, tu vois, qui balbutie, etc. Ça, je pense que c'était la petite dédicace sur la fin. Parce que normalement, son cœur est censé également être surchargé, explosé. Mais il arrive à survivre.
Oui, alors pourquoi ?
On ne sait pas. Pas parce que c'est le super gentil, il ne peut pas mourir.
Oui, ce n'est pas d'autre logique.
Je ne pense pas.
En tout cas, mort du méchant, et scène suivante, on retrouve Tony qui se remet de ses blessures avant de tenir une interview à la presse. Il discute avec Gwyneth juste avant l'interview, et entre les deux, tu sens que ça se précise un peu plus. Quoi.
Ouais, mais ce n'est pas consommé pour autant.
Ouais, ce n'est pas consommé, mais tu
règle de série américaine, quand tu as une romance entre les deux personnages principaux, dès que le moment où c'est consommé, à partir de la saison 3 en général, les audiences chutent derrière. Donc, c'est très bien que s'ils consomment dès le premier film, ça sera pas. Il faut attendre le deuxième au moins.
Et ben, du coup, ils vont patienter. En attendant, Tony, il arrive au niveau de la réunion de presse. Il s'adresse aux journalistes et ça nous donne ça.
Je ne me suis pas retrouvé devant vous depuis un moment, alors je vais rester dans les clous cette fois.
Tony, vous êtes le meilleur.
D'après les rumeurs, j'aurais été impliqué dans les événements qui se sont déroulés sur l'autoroute et le toit de l'immeuble.
Excusez-moi, Monsieur Stark.
Ça, c'est Élise Lucet.
Pouvez-vous vraiment nous faire croire que vous avez un garde en armure qui a surgi du ciel par magie, en dépit du fait que vous êtes l'exemple...
Je sais que c'est un peu étrange.
Cela dit, c'est une chose de douter de la version officielle des faits, mais de là à porter de folles accusations ou à insinuer que je suis peut-être un super-héros...
Je n'ai pas dit que vous étiez un super-héros.
Ah non. Mm-hmm. Tant mieux, parce que ça paraîtrait incongru et...
Tu redescends, hein.
Je suis vraiment loin d'avoir l'étoffe d'un héros. J'ai même une liste longue comme le bras de défauts et diverses erreurs. La plupart publiques.
Lis seulement le texte.
En vérité...
Je vous le dis.
J'ai une grosse bite.
Je suis Iron Man.
C'est un peu ça, en fait. Je suis désolé, c'est un peu ça, quand même.
Et c'est ainsi que se termine Iron Man.
Avant la scène post-générique.
Ouais. Tout à fait. Alors, on va arriver à cette scène post-générique. Qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, il y a Nicolas Furieux qui est dans le salon de Tony Stark et qui lui fait un petit speech en lui disant « Écoute, je suis le patron du SHIELD. » On va l'appeler le SHIELD maintenant.
Ouais.
Et il s'avère qu'on a un petit projet qui s'appelle les Avengers.
Les Vengeurs.
Les Vengeurs, oui, parce les Vengeurs que... en version française.
Parce que vous pensez être un super-héros, mais il y a plein d'autres super-héros.
Mais en fait, il y a plein
d'autres
super-héros, exactement. Mais pour l'instant, on n'en sait rien, parce que c'est le premier film.
Bah oui. Et scène post-générique, ça va être la marque de fabrique de tous les Marvel, en fait.
Ouais, qui va être pompé après dans plein d'autres films, après, derrière l'idée après.
Et puis même qui va être déformé dans la suite des Marvel, qui bientôt
il y aura post-générique,
Et c'est ainsi que se termine pour de vrai ce film. Et donc on arrive au moment des catégories. Alors Charlie, parle-nous de ces catégories.
Et ben en première catégorie, j'ai la meilleure scène du film. Moi perso, je vote pour toute la partie où il conçoit son armure, tu sais, dans son garage. Non, plus dans son garage et puis le test, le vol, tout le truc. Le côté comique avec ses robots me fait marrer aussi.
Ouais.
Donc voilà, je pense que je miserais sur cette scène quand même.
Et ben j'aime bien celle-là, mais je pense que je préfère, même s'il n'est pas en armure, la scène où il présente le Jericho, en fait.
Elle est pas mal.
Parce qu'elle est vraiment stylée. Et puis j'aime vraiment tout le côté après-derrière où il se prend le truc, il se prend l'air. Et après-derrière, t'as le bar à cocktail qui ouvre. Il sort son verre. À partir de 5 milliards, vous aurez tous une exemplaire comme ça. Et après-derrière, il lève son verre. Allez, pour la paix. Ah, franchement, c'est stylé de ouf.
Moi, j'aurais pris celle. La première fois, il débarque en Afghanistan, en fait. Pouf, il arrive, tu le vois vraiment, tu sais, quand il s'écrase.
En armure.
Ouais. Okay. Et jusqu'au moment où il explose le char de façon
badass. Ah, ok, oui, d'accord. Ouais. Le premier test, quoi. Premier test sur le terrain.
Ouais, c'est ça.
J'avais ce qui a le mieux vieilli. Moi, j'avais les effets spéciaux.
Ah, carrément.
Bien vieilli. Ouais. L'humour global du film. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouvais que c'était un film qui se voulait assez drôle. Non, mais drôle.
Dans ce qui a bien vieilli, ok, la parole.
Oui, voilà. Ouais. Dans ce qui a le mieux vieilli.
L'Audi R8 aussi a bien vieilli.
L'Audi R8. J'avais le style de Jeff Bridges qui pète la classe.
Ah, tu les as tous donnés, en fait.
Le régime de John Favreau.
Ah oui, donc il les a
tous donnés. Bah non, les gars, réagissez, dites des trucs. Hein.
Je partage tout à fait ton point de vue sur les effets spéciaux. Et sur Jeff Bridges, putain, Jeff Bridges, il est vraiment... Je trouve, en fait, autant quand il est en armure, elle pue son armure, mais alors autant les deux en civil...
Elle en impose quand même un peu.
Mais il bouffe Tony Stark.
J'avais les effets sonores aussi. Et tout l'habillage sonore du... Oui,
totalement.
Effectivement. Disait, Alors, ce qui a le moins bien vieilli, par exemple.
Ah bah, l'humour auprès des femmes. Je trouve que le harcèlement sexuel dans ce film est quand même très important. Je trouve que quand même, c'est du coup, moi, c'est la première chose qui m'a fait tiquer. Quoi. Je fais, ouais, ce film, il sortirait maintenant, il serait carrément pas du tout comme ça, en fait.
Ouais, t'as des vannes qui seraient plus édulcorées, ouais.
L'armée américaine en Afghanistan. Je trouve ça très mal vieilli. Ça.
Historiquement, il y a un problème, ouais, c'est clair.
Aujourd'hui, c'est... Alors, c'est vraiment personnel, mais le book de Robert Downey Jr., je suis pas convaincu.
Oui,
de son style, travaillé. Tu sais, qui part vers l'arrière, comme ça, vers la fin de la mâchoire, et qui revient ensuite...
Bah, qui fait une sorte de S Stark, un peu
oui,
inversé.
C'est ça,
qu'Alexandre Astier a pompé, mais pendant des années.
Est-ce que c'est l'apogée de quelqu'un ?
Ah bah, concrètement...
Je pense que c'est le début de l'apogée de Robert Downey Jr.
Ouais.
Son renouveau.
Ouais. Son renouveau.
Ouais. Ouais. Ouais.
Alors, les questions sans réponse du film. Est-ce que Tony Stark est sur la liste Epstein ou pas du tout? C'est une vraie question. Est-ce
non,
que vous
pense
pensez
pas.
Qu'il y est ou pas?
Non, ce serait.
Donc,
ce
il
ça,
se quoi. Limite aux meufs majeures.
Oui, majeures.
D'accord, ok. J'avais. Quel nom il donne à Twitter après l'avoir racheté? Est-ce qu'il l'appelle Avenge Book?
Je pense qu'il l'appelle S.
S? Ah oui, S comme Stark, bien sûr. La morale du film.
Si tu crées des armes pour les éradiquer, bah t'as juste créé plus d'armes en fait, c'est simple en fait.
Jamais trop tard pour s'acheter une conscience.
Utiliser des armes pour tuer des armes.
Bon, c'est la méthode américaine en même temps.
Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Ça va tellement bien avec le port d'armes. En fin de compte, ça fonctionne.
Bah voilà,
c'est clair.
C'est juste que tout le monde n'a pas assez d'armes.
Il faut bien qu'il y ait une arme pour tuer le mec qui a une arme. Mais peut-être le problème à l'envers, non?
Bah non.
Et alors, la vraie question, le recasting, la meilleure catégorie pour la fin.
Moi, vraiment, José Garcia, Anthony Stark. Après, en Jeff Bridges, putain, il faudrait un méchant.
Comment il s'appelle l'acteur?
Moi, je voulais Josh Brolin, mais après, Josh Brolin, je trouve que voilà, il a cette gueule un peu.
Ouais.
Tu vois, les yeux un peu fermés
Anthony
comme
Stark,
ça.
Toi, Mickey.
Anthony Stark, je me demande si Ryan Gosling aurait pas pu faire le taf.
Ouais, j'aime pas en blond.
Je veux dire, techniquement, au niveau de l'âge.
Je pas cette charisme.
Tu vois, l'âge qu'il avait à l'époque, c'est exactement le même. Tu vois, le côté un peu comique, impro.
Non, je réfléchissais à un Jeff Bridges français.
Il faudrait un vieux. J'ai vu qui impose. Non, non, non.
Putain, Philippe Etchebest, là, on aurait pu le mettre.
Philippe Etchebest, ça aurait été stylé.
Philippe Etchebest, c'est excellent.
Ouais, ah, bien vu.
Ouais, franchement, vas-y, c'est quoi Philippe Etchebest?
Ça serait vraiment bien.
Et en Gwyneth Paltrow,
une actrice française, wow, ça ouais. Peut être n'importe qui. Hein.
Sandrine Kiberlain.
Oh.
Franchement, c'est pour moi.
Ah, une Virginie Fira.
Elle est peut-être un peu trop vieille.
Oui, mais elle lui ressemble énormément.
Une ouais, Virginie Fira. Ou alors, si vraiment tu veux faire la petite top de top, comment elle s'appelle, la meuf de Azanavicius?
Ah, Bérénice Bejo.
Ouais. Oui, parce que sinon.
Bérénice Bejo et Jean Dujardin.
Ouais, ça, oui, ça commence à être.
José Garcia, gros.
Ah, mais c'est vrai que José Garcia, c'est pas mal.
José Garcia. Nick Fury, Jean Reno.
Ah, oui, peut-être. Ouais.
Ça passerait crème.
C'est vrai qu'il a le potentiel pour planer un peu au-dessus de la franchise, tu vois.
Et le méchant Mola, bon, tu claques sa mina série.
C'est gratos.
Ça, c'est fait. Allez, c'est le moment. Mes amis, c'est le moment. Alors, combien de chocolat on lui donne à ce premier Iron Man?
Alors, on le note en tant que film?
En tant que film.
Ou dans la franchise?
En tant que film.
Franchement, un bon 3,5. Ouais. Parce que ça se regarde encore très bien.
Carrément, ouais.
Je trouve que les effets spéciaux ont bien vieilli. Bon, le film est un peu daté sur certains points, mais c'est rythmé, ça te présente bien le personnage, t'y crois à peu près. Je trouvais que les musiques étaient bien, les effets spéciaux sont plutôt... non, les personnages, c'est drôle, il y a de l'humour. Ça fonctionne. Tu t'emmerdes pas trop, bon, hormis la dernière partie, ouais. Le combat final, de toute façon, c'est un problème dans tous les films d'action en général. Mais...
Et encore pire chez Disney Marvel.
Mais ouais. Mais non, franchement, ça reste un bon film, même 15 ans plus tard. Ouais. 3,5, ouais.
Ok, Thomas.
Moi, je suis assez proche de la note de Charlie, parce que j'ai hésité beaucoup entre 3,5 et 4, mais ouais. Je pense qu'il mérite le 4, parce que vraiment, c'était casse-gueule comme projet quand même, vraiment.
Ah, c'est vrai que sur le papier, je veux dire, t'as pas un acteur tête d'affiche.
Ouais.
Robert Downey Jr., c'était pas...
Bah, à l'époque, ouais.
Et puis ça parle d'un... Non, franchement, à l'époque, c'était franchement casse-gueule de ouf, et ouais. ça tient encore, et le film, comme tu le dis, Charlie, franchement, tu le regardes maintenant, mis à part la place des femmes, quand même, et...
Toi.
Non, ouais, c'est clair. Je suis déconstruit. Allez-y.
Je vais vous les femmes.
Les auditrices sont nombreuses en même temps.
Je suis déconstruit, ouais, c'est clair.
Comme il n'a pas dit... une tête de In the Panda.
Oh,
le mec balance.
Si merde.
Vas-y, In the
Panda. Non, mais sinon, comme vous l'avez dit, les effets spéciaux sont bien. Globalement, le scénario tient la route. Mis à part, comme vous l'avez dit, bah, le combat final qui est pas ouf. Mais tout le reste, l'acteur, putain, il a franchement un super rôle. Il le joue bien, il l'incarne.
Tu sens que n'importe qui d'autre, ça aurait sans doute été un échec.
Ouais.
Parce que je crois qu'au niveau impro, il a quand même beaucoup apporté au film.
Non, franchement, c'est chouette. Donc, du coup, je pense qu'il mérite bien son 4. C'est un bon film.
Bah, écoute, je suis assez d'accord avec toi. Si on le juge en tant que tel, ouais, non, je pense qu'un 4. Je suis assez d'accord. Parce que, comme disait Charlie, comme tu disais aussi, les effets spéciaux, c'est... Enfin, ça passe nickel. Il a combien de temps? 2008, ouais. Donc,
ça 15 ans. Temps, quand même.
Donc, c'est... Ouais, non, ça a très, très bien vieilli. L'humour passe bien. Tout se tient. Les musiques, putain, mais voilà. T'as une identité auditive au niveau des bruitages. Les musiques sont vraiment bien. La bande originale, je la trouve vraiment canon. Non, franchement, tout est nickel. Bémol du combat final, mais ça, c'est le cahier des charges. Donc, ouais, non, 4, c'est très bien comme ça. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Sachez que, voilà, on va commencer à se refaire cette petite saga Marvel.
Et
tranquillement. Tranquille.
25 épisodes.
Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.
Bisous.
C'est vraiment trop débile, votre truc.
Si ça te plaît pas, tu peux aller te faire foutre, pauvre truffe.
Et surtout, n'oubliez pas.
Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.